Rebonjour, deuxième partie du Comic City Chronicles numéro 3 avec un deuxième plateau d'invités. C'est un débat sur les adaptations face aux comics. On a gardé le thème du versus. Cette fois-ci, autour de la table, on retrouve Fuch,
Salut.
Kiwi,
Salut les gens.
Nono
Salut à tous.
et Sik.
Bonjour tout le
Puisque nous sommes dimanche après-midi et nous sommes avec un petit après-midi ensoleillé, j'ai entendu
Parle
dire
pour toi là.
que ouais, c'est pas le cas.
Non, moi il fait beau chez moi.
C'est
C'est cool.
légèrement ensoleillé. Ouais. Comme quoi dans le sud il fait plus beau.
Ouais, mais le site c'est
Voilà.
toujours mieux.
J'ai ouï dire que certains étaient accompagnés pour cet enregistrement, accompagnés d'un verre. Tu vas faire un petit
C'est
tour de
ça.
table de que buvez-vous pendant l'enregistrement? Fuch, que bois-tu?
De l'eau de source.
De l'eau de source précise, précise, parce que c'était quand même énorme.
Voilà. Louise. L'eau de source Louise est déferrisée et embouteillée sous contrôle laboratoire quotidien. À
Moins, on sait que
consommer
c'est
de préférence avant la date indiquée.
bon, c'est bon.
Sponsorisé par la
Attends.
région Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Donc
Belle
c'est bon,
source.
j'ai touché 2 euros pour le podcast.
Ça en fera moins, tu gagnes de l'argent. Kimi, que bois-tu?
Alors moi du vin blanc, un Cadillac de cuvée 2003, qui est très bon.
Et très doux.
Et très doux.
La vieille bande
Il
d'alcooliques.
chatouille bien le palais.
Nono, que bois-tu?
Un petit verre de vin rouge Baron de l'Estac.
Oh, c'est pas
Quelle
chic,
année?
hein.
Je sais pas, la bouteille est restée sur la table, donc sinon je vais la finir et c'est pas cool.
Vieux alcoolo.
On est du Nord où on l'est pas, hein.
Voilà, c'est ça.
De toute façon, vous êtes alcoolique, mais pas que.
Mais pas
Mais pas
que.
que. Voilà. Si, que bois-tu?
Eh ben moi, je bois du canard WC.
Ça a bon goût?
Ben écoute, ouais, en fait, à la base, j'avais pris du jus d'ananas, et puis j'ai fini mon jus d'ananas, donc je suis allé chercher de la menthe, et j'ai dû mal nettoyer mon verre, ce qui fait que ça a une couleur turquoise assez bizarre. Mais c'est bon.
C'est pour enlever le tartre présent dans la
Ouais,
bouche.
bah, je me sens
Voilà.
bien nettoyé, là. Je sens que...
Ça
J'ai
évite un rendez-vous
goûté?
chez le dentiste. Ah,
J'ai
oh,
une...
magnifique, magnifique.
J'ai une bonne haleine.
Oui.
Et
Ça
toi,
sent les
qu'est-ce que
toilettes.
tu
Bah moi, je tourne au café, quasiment vide d'ailleurs. Il me reste une pauvre
Voilà.
gorgée.
Que fait la secrétaire?
Elle écoute de la musique.
Ouais, elle doit être en train de jouer à WoW ou un truc dans le genre. Non.
Non, même pas.
Même
Mauvaise
pas.
langue.
Ah.
Elle travaille sur Comic City.
On va
Ouais,
dire
donc elle
ça,
joue à WoW en vrai. C'est son code pour dire je joue à la console chassée. Oui, je vais travailler sur les sites.
ouais.
On voit aucun changement depuis tout ce temps, il n'y a eu aucun changement. Mais...
C'est bien, donc on passe d'un débat les filles dans les comics à on tabasse les filles. C'est
Mais si
bien.
ça se trouve, en fait, elle est en train de faire du cosplay, elle est habillée en troll et elle balade et poursuit son chien.
Ou alors elle fait fermer des sites.
C'est possible aussi.
Ça lui arrive parfois. Mais si ce
Bien.
n'est qu'une femme.
On va attaquer. Oh là là.
Ah oui. Je me dis, après un sujet, tu vois, sur les femmes, il faut faire un peu de misogynie pour remettre les choses à leur place, tu vois.
Oui, quand même. Oui.
Surtout qu'on
Voilà,
va parler par
minimum.
voyeur en plus, donc ça va être parfait.
Les adaptations face aux comics, ou les comics face aux adaptations, dans l'ordre que vous voulez. Qu'est-ce qui fait une bonne adaptation d'une mauvaise? Pourquoi aussi souvent elles sont ratées? Parce que faut pas se voiler la face, c'est quand même
Ouais, c'est vrai que
souvent
le
fois
plus
raté.
souvent, elles sont bien ratées quand même. On en ressort
Ben,
beaucoup dessus.
bah,
je
ça...
dirais ça dépend pour qui.
Voilà.
Ah, pas faux. Mais attends, parce que nous, enfin tous, là, autour de nos micros, on est des fans de comics qui avons
Ah non, pas
suivi
moi.
toute l'histoire depuis...
Non, moi je n'en lis jamais, je ne lis que du Victor Hugo et du Guy de Maupassant.
Eh
Et
ben moi,
bien
de
même,
toute
est-ce
façon, du
que
coup,
tu
pas
trouves
sans,
que
c'est
les
chiant.
adaptations de Victor Hugo sont bonnes?
C'est un sujet sur lequel je n'irai pas me prononcer
Mais
par
écoute, si c'était hors
modestie.
sujet, les adaptations de Maupassant qui ont été faites par France 2 étaient vraiment pas mal.
Ça dépend lesquels. J'ai trouvé
Et
qu'il y
ça
en a qui
dépend pour
étaient...
qui?
Ça dépend aussi des acteurs, hein, je pense.
Il y a ça aussi,
Ouais. Parce qu'il y en a qui étaient vraiment chiantes.
Un peu comme Tobey Maguire dans le rôle de Peter Parker.
Lui, il est pas chiant, il est atterrant.
Bah pareil, je réitère.
Ça dépend pour
Oui, non,
qui.
mais si tu veux,
Ça
après,
dépend.
Non, ça
c'est
dépend.
toujours la même chose. C'est-à-dire que, en fait, on passe d'un format, le comics, qui est considéré comme, enfin, qui est même dénigré par certaines personnes, on le passe à l'écran, et là, c'est dix fois plus grand public. Donc, faut aussi adapter à un grand public, à un public popcorn, à un public qui aime manger, et donc, tu leur files quelque chose où ils vont être contents, ils ont pas à réfléchir, quoi.
Voilà, c'est ça. Moi, par exemple, quand j'ai vu les Spider-Man au ciné, ou même les X-Men, à l'époque, je lisais pas de comics, et j'ai aimé ces films. C'est après, en lisant les comics, que je me suis dit, mais les films, c'est du gros n'importe quoi.
Bah, après, ça dépend. Parce que, il faut aussi aller, je crois que j'en avais déjà parlé, History of Violence, c'est un comics à la base, et le film est quand même énorme.
Oui. Le film est très très bon.
Mais la fin diffère. 300.
Ouais. Ouais, enfin moi 300 ça me passionne pas quoi, j'ai absolument pas envie de le voir.
Mais le problème qu'on tombe souvent c'est que
Ouais, puis la façon de filmer le design en général et l'image du film, la photographie me plaît pas du tout quoi.
Est-ce que ça t'a pas un peu choqué, parce que c'est le même réalisateur, est-ce que ça t'a pas un peu choqué que pour Watchmen, il y ait autant de baston dans le film, sachant que dans le comics en fait il y en a relativement très peu de la baston. Ou alors elle est super réaliste. Dans le film Watchmen, c'est un petit côté 300 avec ouais, on se bat vraiment comme des super-héros, ce qui colle pas avec le comics du tout.
Ça m'a pas particulièrement choqué, honnêtement.
Moi, je dirais juste qu'ils se sont un peu plus attardés sur les scènes d'action que dans le comics, mais aussi en même temps, ils ont amputé le comics d'une grande partie en le mettant dans un bonus. Donc après,
mais faut pas oublier, c'est aussi l'univers du réalisateur.
Voilà, rappelez-vous la scène d'intro de Watchmen. Avec le combat du comédien. En fait, on voit le comédien qui éclate des murs. C'est-à-dire, il donne des coups de poing, les murs se fracassent. Le comédien, c'est juste un être humain normal, certes musclé, mais pas plus que Magnum, tu vois, pour le petit côté moustachu.
La référence.
Eh oui. Mais je suis très doué en moustachu, je préviens. Ah oui, je joue à Super Mario. Mais n'importe quoi, c'est parti.
C'est le vin qui commence à parler, c'est ça.
C'est bon. Il est très très bon. Voilà. Mais du coup, par rapport au comics, où vraiment ils se battaient normalement dans le comics, c'est des combats tout à fait basiques. Là, c'est des mecs qui explosent des murs en voiture, voilà quoi.
Et là encore, c'est à cause de l'univers du réalisateur.
Ouais, tout ça.
Je pense Snyder.
Zack Snyder, ouais.
Voilà, sa façon de filmer, tu regardes 300, tu regardes Watchmen, voilà, il apporte
ça. Ça n'empêche que la scène avec Rorschach en prison, et enfin les scènes sont très très bien, elles sont nickel quoi, je trouve.
Mais faut dire que le Watchmen a excessivement bien respecté le comics. Les plans du film sont vraiment les plans du comics.
Oui.
C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes images avec les mêmes éléments et tout ça.
Comme Sin City,
exactement.
Mais pourtant, ces films n'ont pas fonctionné tant que ça.
Ah, Watchmen a relativement bien fonctionné.
Si, Watchmen a bien fonctionné quand même.
Si. Par contre, ce qui a été con pour Watchmen, c'est que le DVD, ils l'ont vendu sans le bonus.
Il fallait l'acheter à part.
Voilà, enfin le Director's Cut, ils l'ont pas vendu dans le DVD, et ça c'était un peu con quoi. Parce que c'était trois quarts d'heure de film en plus quand même.
La grosse question c'est quand même, est-ce que pour un public de fans, on doit respecter plan pour plan ce qu'on a vu dans le comics, quitte à ne pas avoir de surprise pour nous fans. Voilà, est-ce que c'est ça qui fait une bonne adaptation ?
Je veux dire, ça dépend ce que tu adaptes. Par exemple, Spider-Man. C'est quand même une histoire qui date depuis 63, si mes souvenirs sont bons, ça a commencé Spider-Man.
62
dans Fantasy 15. Ok, donc 62. Tu fais un film sur Spider-Man, t'es obligé de faire une adaptation et de prendre des libertés pour des trucs. À la limite, tu peux faire quelques petites références, par exemple, le costume dans la poubelle.
Oui, voilà. Ce plan était magnifique, honnêtement.
Ce plan était très beau. Voilà, mais tu ne peux pas faire guère plus, parce que, ou alors sinon tu dois prendre un seul arc, par exemple la dernière chasse de Kraven. La dernière chasse de Kraven dépend de tout ce qui s'est passé avant. Donc dans un film sur Spider-Man, si tu fais la dernière chasse de Kraven, ça peut pas marcher.
Mais en même temps, ils font déjà il y a plein de films où il y a plein de non-dits, où tu sais qu'il s'est passé des choses et tu ne connais pas nécessairement tout, et qui te disent on va faire des justement ils vont faire par exemple des comics ou des bouquins à côté, et ils te prennent un truc qu'il faut forcément que ce soit fluide, que ce soit limite néant, qu'on nous explique déjà tout depuis le début. C'est un peu chiant aussi quoi.
Ouais, mais l'univers de Spider-Man est tellement riche que les scénaristes sont obligés de zapper des choses et de rajouter des trucs qui, dans le comics, vont mettre un an ou deux à se mettre en place. Là, on n'a qu'une heure et demie, quoi.
Oui, ça, moi, je peux le comprendre. Mais doit-on modifier l'histoire au point, par exemple, de faire tomber Mary Jane du pont ?
Bah, c'est la différence des adaptations. En fait, tu prends Watchmen. Bon, Watchmen, c'est une série qui est finie.
Oui.
C'est la différence avec, par exemple, Spider-Man, t'as un univers qui existe depuis des années, qui est pas fini. Pareil, Scott Pilgrim, c'est quelque chose qui est fini. C'est ça le problème. C'est
ouais, que... enfin, si tu prends Wanted, enfin, ils ont bien fait de mettre, inspiré du comics. Parce que, c'est prévu pour être une trilogie, et enfin, voilà. Enfin, j'ai été déçu parce que j'avais apprécié, le comics, et puis, je le regarde, je vois pas du tout, la base du comics, c'est, et si les super vilains avaient gagné, et là, voilà quoi, des super criminels qui, même pas des super criminels, une congrégation d'assassins qui domine le monde, super, c'est un truc hyper original.
C'est aussi le danger des adaptations, t'en as qui ne prennent que les bases. Par exemple, je sais pas, tu prends Nolan, qui prend le mythe de Batman, mais quand tu regardes, ça n'a rien à voir, t'as plus le côté comics, tout le côté fantastique dans les films de Nolan, il disparaît. Tout est réaliste. Et pour autant, le film, il est bon.
Le film, je trouve que ça fait très bien ressortir l'ambiance de Batman.
Les films de Batman, et tu lis des comics de Batman, t'as tout le côté un peu fantastique qui est plus présent, mais pour autant, c'est pas...
Oui, mais le pas toujours bon. Non plus, quoi.
Ouais, voilà, mais le film est bon pour ça. Alors c'est ça aussi le danger, c'est pas un moment qui sont plus parti sur autre chose et...
Il faut pas se leurrer aussi. Il y a aussi la qualité de l'écriture au niveau du scénariste, ouais, la qualité du film, la qualité du jeu d'acteur. Faut pas non plus. Maintenant, après, il y a des films qui sont que tu n'apprécies pas parce que tu n'apprécies pas le scénario de la manière dont il a été adapté. Par exemple, les Spider-Man, on les apprécie pas, mais du point de vue des jeux d'acteurs quand même ou de la filmographie, ça reste correct.
Mmh. Moi, après, je les ai appréciés. Hein. Enfin, j'ai toujours pas vu le 3.
Moi, j'ai passé un bon moment devant, mais après, je me suis dit, voilà quoi.
Ouais, pour moi, Spider-Man 3, l'image et les combats sont magnifiques. Les combats sont vraiment super beaux, mais le scénario est une merde. Voilà. Le scénario est vraiment mauvais. En plus, il y a un plan, mais que j'ai trouvé vraiment ridicule. Spider-Man est apprécié du public, ce qui en soi, c'est tout le contraire de Spider-Man. Je veux dire, Spider-Man, s'il se trimballe en haut des buildings, c'est parce que quand il marche par terre, on le crache dessus. C'est la base du personnage quand même.
Mais je pense que dans le 3, je pense qu'ils ont voulu mettre trop de choses par rapport à l'univers en fait.
Mais déjà,
par exemple, ils ont voulu intégrer Venom, ils ont voulu intégrer le
Venom est super mal adapté,
qui a tué son oncle, tout ça. Non, mais ils ont voulu mettre trop de choses.
Mais voilà, il y avait trop de méchants. Déjà, ils auraient dû faire soit que Venom, soit que l'autre. Mais déjà, Venom a été mal adapté. Déjà, la voix en français, moi je l'ai vu en français, la voix de Venom est ridicule. Venom, c'est un gros monstre quand même qui fait plus de 2 mètres. Il a une voix de fillette de 5 ans.
Il a quand même un petit souci. En même temps, il a été ajouté, tu vois, au dernier moment.
Ouais,
là-bas, ça devait être concentré sur l'homme sable. Enfin, ça se voit déjà dans le film, tu sens déjà.
Comme méchant en Spider-Man 3, on a quand même Venom, l'homme sable, qui est fusionné avec le tueur d'Oncle Ben, et le bouffon vert.
Ouais, voilà.
Alors, ça commence à devenir lourd, quoi. C'est pas... Et en plus, tu rajoutes Gwen Stacy.
Voilà. Non, mais on sent qu'ils ont voulu trop se rapprocher, justement, de l'univers. Ils se sont rendus compte, faudrait aussi qu'on ramène les fans, donc on va mettre ça, ce qu'il y a eu dans le comics, et voilà. Et c'est ça le danger, c'est trop mettre, pas assez.
J'ai l'impression que pour Spider-Man, tu vois, les producteurs n'arrivent pas à comprendre ce que demandent les fans. Ça fait quand même des années que les fans demandent d'avoir le lézard dans les films Spider-Man. Parce que justement, c'est un truc facile à adapter, et ça te fait de très bonnes histoires, quoi. Et ils ne le font pas, tu vois, ils te sortent l'homme sable, par exemple, qui en a rien à foutre.
Enfin, après, le souci des adaptations de comics, c'est que souvent, on les juge pas en tant que film. On les juge en tant qu'adaptation de comics.
C'est vrai.
Oui, puis on les juge en tant que nous, fans de comics. C'est-à-dire que on connaît l'histoire, on connaît tout le truc, mais voilà, quand on voit le film, là je vais arrêter de parler de Spider-Man, je voulais parler des X-Men, par exemple. Mm-hmm. Les X-Men, quand tu regardes, ça n'a strictement rien à voir avec les origines qu'on connaît tous depuis des années.
Totalement. Moi, j'ai détesté.
Personnellement, les deux premiers, j'ai aimé.
Mais moi, je ne connaissais pas le comics. Et après, quand je me suis mis à lire, parce que je suis arrivé dans les comics grâce au cinéma, mais non, il n'y a pas que toi.
Vous êtes deux.
Voilà.
Quand toi aussi, t'as des chaussettes Spider-Man.
Non,
je suis le seul.
Mais quand je me suis mis à lire les origines des X-Men, ou même la série récurrente, Voilà, je me suis dit, mais merde, par exemple, Iceman, c'est pas un étudiant, c'est l'un des premiers. Angel, il apparaît que dans le 3, alors qu'il est là dès les premiers aussi. Et tu dis, mais pourquoi faire un tel changement, alors que les origines des comics fonctionnent super bien?
Mais justement,
c'est plus emblématique pour les films X-Men. Cyclope, Tornade, Jean Grey, Wolverine, forcément. Voilà, c'est quand même les personnages X-Men les plus célèbres.
Il y a des trucs, moi, que je peux pas saquer, du genre mélanger le personnage de Rogue et de Jubilee. C'est-à-dire que Rogue a la relation avec Wolverine que Jubilee avait. Enfin, pour moi, c'est vraiment problématique. Ouais.
Mais encore une fois...
En même temps, Alicia, quand elle est arrivée chez les X-Men, elle était adolescente aussi.
Ouais, enfin, elle était plus qu'adolescente, elle était quasiment adulte.
Elle a un rôle aussi après la Shadow... Enfin, comme Jubilee avait le rôle de Shadowcat aussi, d'être...
Moi, ce qui m'a irrité, en fait, c'est ce qu'ils ont fait du fléau. Une sorte de tank qui casse des murs, quoi.
Attends, le fléau dans le comics, c'est garde différent de ça. C'est un
ouais, tank. Mais enfin, quand même, il a une relation...
Moi, c'est son costume que je trouve ridicule.
Attends, mais... Alors... J'avais lu ça sur internet, j'ai pas regardé le film une deuxième fois parce que non quoi. Mais pour X-Men 3 apparemment. Non, j'ai pas pu. Franchement, déjà j'ai eu du mal à regarder X-Men 3 jusqu'au bout, tu vois, alors le regarder une deuxième fois, non merci quoi.
Fallait faire comment, fallait pas voir.
Pourtant j'avais adoré le 2. J'ai trouvé le 2 très bon, le premier ça passe, tu vois, le 2 est très bon pour moi et le 3 est une merde. Mais apparemment dans le 3, le fléau est sans casque, donc visage découvert, devant Xavier, et il y en a aucun tilt qui a son demi-frère à côté.
Ah non, mais c'est pas son demi-frère.
Mais c'est pas du tout son demi-frère. Voilà, en plus, c'est un mutant. C'est considéré comme un mutant.
Et oui, alors ça n'en est pas.
Ça n'en est pas, hein.
Et comme disait Nono, là, Nono, il a pas... Moi aussi, j'ai apprécié les X-Men. Quand tu lis les comics, tu te rends compte, voilà, pourquoi ils ont fait ça. Mais le but des adaptations, c'est de plaire au public. Et les trois quarts qui vont aller au cinéma n'ont jamais lu les comics.
Oui, mais ils s'attendent bien quand même à, quand ils sortent des films comme ça... à subir les foudres des fans.
Ouais, mais je pense qu'en comparé, enfin, le pourcentage de fans par rapport à ceux qui n'ont pas lu les comics.
Et même de femmes.
De femmes, mais non, il doit pas être si important que ça. Donc je pense. Enfin,
d'abord, le fan, il va voir le premier film. Mettons pour X-Men ou pour Spider-Man ou les trois films. Il va voir le premier film. Il en dit du mal. Néanmoins, il retourne au cinéma voir le deuxième. Et il fera pareil pour le troisième.
Voilà.
Donc, ça dépend. Moi, j'y suis pas retourné, tu vois.
Oui, mais la majorité des gens vont quand même.
Oui, parce que...
Ils chargent illégalement, tu vois, au pire. Mais ils le voient quand même.
Ouais, mais tu vois, voir un film style X-Men ou Spider-Man illégalement chez soi, sur son ordinateur, j'en vois pas l'intérêt.
C'est des films, franchement, qui sont prévus pour se voir au cinéma. C'est voilà, du grand spectacle.
Écran, voilà, c'est...
Là, mais par exemple, quand je suis allé voir Wolverine au
cinéma... Attends, quand je suis allé voir Wolverine au cinéma, franchement, j'en suis ressorti en me disant, bon, l'intro était vachement bien. Ouais. Avec... le passage où il fait
la scène d'intro est la meilleure chose du film.
Ah, voilà, le reste après c'est...
Tu te dis, j'ai dépensé des thunes, tu vois, pour aller voir au cinéma, et tu dis que quelque part, le téléchargement illégal, ça se comprend.
Ouais. Voilà. Mais, tu vois, par exemple, là, le prochain X-Men qui sort cet été, d'après ce qu'on a pu en voir, les différents teasers, etc., ça a l'air d'être une bouse sans nom, je vais quand même y aller.
Ah, c'est pas ton avis, tu vois.
Ah, moi, je trouve qu'il y a un truc, c'est assez énervant. Il y a les gens, ils voient des visuels, ils disent, oh, il a des, par exemple, pour X-Men, oh, Xavier a des cheveux, oh, les combinaisons sont nulles. Mais franchement, en quoi, c'est des détails mineurs, c'est comme la
polémique qu'il y a eu. Xavier, a perdu ses cheveux à partir du moment où il a eu des pouvoirs, quasiment.
Ouais, mais est-ce que ça fait vraiment.
C'est pas bon, Xavier.
Bah, voilà. En quoi ça ferait forcément un mauvais film qu'il a des cheveux? C'est quoi? C'est comme la polémique qu'il y a eu sur Thor avec l'un des dieux qui est d'une couleur de peau noire au lieu d'être blanc.
Tu vois, ça me gêne pas. Là où c'est couleur de peau qui change, là où c'est gênant, c'est quand ça touche un personnage principal. Rappelez-vous de la superbe adaptation de Spawn, par exemple, où on a quand même le mec qui se remet avec la femme d'Al Simmons qui est blanc. Enfin. Ouais. Ah ben pour moi c'est quand même super gênant parce que il y a tout ce côté communautariste qu'il y avait aussi dans Spawn.
Là c'est encore une fois Spawn Black. T'as lu le comics
qui est totalement.
Quand Spawn, t'as pas envie de te mettre au comics quand t'as vu le film.
Non parce non, que vraiment, je l'ai vu avant de me mettre au comics et
oula. Moi ça m'avait pas donné envie à l'époque.
J'ai mis 2 ans avant de lire du Spawn.
Et moi j'avais été le voir en me disant oh putain un Spawn quoi merde. Et putain je suis ressorti, j'ai fait oh la vache, qu'est-ce que je viens de prendre dans la gueule, c'est pas possible.
La cape est très belle.
Ah non, la cape est affreuse.
Si, moi je trouve que là, il y a des moments dans le film avec la cape, je trouve qu'elle est bien.
Oui, à certains moments. Il y a des moments, c'est PS1 aussi, quoi. Enfin, franchement, t'as l'impression de voir des graphismes de PS1, quoi. Ça fait un peu mal au cul.
C'est l'époque en même temps.
En même temps, 40 millions de dollars pour un film, dont 20 millions de dollars qui sont juste uniquement pour la cape. On pouvait pas aller très loin, quoi. Production Roger Corman, quoi.
Sauvé dedans, après le reste.
Mais il y avait des. Hey, par contre, à propos de Spawn, est-ce que vous avez vu la mini-série animée de Spawn?
Oui,
qui était très proche du comics, en fait. Oui, vraiment excellente.
Oui, mais là c'était HBO, c'était autre chose, quoi.
Ah, même aussi le format, le dessin animé, tu vois, c'est plus facile de.
Bien sûr.
Proche du comics. Hein.
Bien sûr, mais quand t'es pas une production Roger Corman, déjà c'est forcément plus facile de faire quelque chose d'à peu près correct.
Ouais,
enfin, faut être honnête, quoi. Roger Corman.
Comics, je sais pas, moi, t'as des trucs, des costumes ridicules, ridicules, je sais pas. Par exemple, Captain America, dans le comics, il avait des petites ailettes. T'aurais fait ça dans le film. Ils auraient mis des ailettes dans le film, ça aurait été horrible.
Il y a des détails qu'on peut se permettre de changer.
Par exemple, je sais que c'est
sans gêner.
Des films de Captain America où il avait ces fameuses ailettes. Ouais. C'est mais vraiment ridicule. C'est...
Ouais, non, mais il y a des petits détails. Il y a des tout petits détails comme ça qui ne changeront rien parce que les ailettes n'ont aucune fonction. C'est pas comme si c'était genre des espèces de.
Les cheveux de Xavier, ils n'ont pas de fonction.
Oui,
si parce que c'est l'expression de son pouvoir.
Web shooter. Hein.
Exactement.
Les web shooter, il y a quand même tout un débat sur. Est-ce que il faut des web shooters ou
mais moi j'aurais préféré des web shooters tout simplement parce que on oublie totalement dans le film, et ça c'est un des gros défauts qui m'a gêné dans Spider-Man, on oublie totalement que c'est un scientifique. On n'en parle pas une seule
en même
fois.
Temps dans le comics, quand tu vois qu'il fait ses web shooters, attends, il fait ça en une nuit. Alors, je suis bien d'accord qu'il est intelligent, mais à la base, étudiant, il va pas faire ça en.
Attends, il a toujours dit dans le comics que c'était la connaissance de l'araignée qui lui avait permis de créer les web shooters.
Ouais, enfin, en tout cas, quand tu regardes la première
imagination, tu vois, de savoir comment créer ça, quoi.
Oui, non, mais là, tu peux modifier le détail qu'il n'ait pas réussi en une nuit, qu'il ait mis une semaine ou un mois à le faire. On sait très bien qu'il n'a pas utilisé ses pouvoirs pour faire des combats de catch tout de suite. C'est pas dès le lendemain qu'il a eu ses pouvoirs qu'il a été se mettre sur
un
ring de catch.
Après, t'as le débat aussi, il a l'agilité, il a la force, il peut s'adhérer aux parois. Pourquoi il n'aurait pas,
Oui. Moi, ça m'a semblé totalement logique à l'époque.
C'est dans une certaine logique. Bon, après, t'as le débat, pourquoi ça doit sortir des bras?
Ça, c'est, tu vois, je trouve, bon, moi, c'est un choix. C'est un choix qui, oui, ça sort de sa bouche, normalement.
Moi, je crois.
Mais bon. Ça aurait été pas très esthétique, quand même.
Non, voilà. C'est vrai.
Il aurait fallu un trou pour la bouche, voilà. On aurait très bien pu le reconnaître, avec, son empreinte dentaire, hein. Les gens reconnaissent ses dents, et voilà. Ah, c'est toi, Peter Parker.
Dans les comics, maintenant, t'as plus beaucoup de moments où il est à court.
Oui, c'est vrai.
Mais... dans le film, là, qu'ils vont faire, c'est bien qu'ils mettent du web shooter, mais est-ce que pour autant, ça va vraiment être utilisé?
Ou ce sera utilisé, obligatoirement. Obligatoirement, il y aura un moment où il n'y aura plus de toi.
Ça, il faut l'utiliser, forcément.
Ouais, voilà. Mais
ça fait partie du charme du personnage de dire, voilà, en cas vraiment de gros combat, il peut être dans la merde à cause de...
Si c'est exploité, ouais, là, c'est intéressant.
À la limite, s'il a vraiment des web shooters intégrés biologiquement, dans ce cas, qu'on nous explique que voilà, en fonction de ce qu'il mange, sa toile est différente, tu vois, et que du coup, elle a des propriétés différentes selon ce qu'il mange, des trucs comme ça.
Je crois qu'il y avait un truc qui était intéressant.
Comment ils exploitent le truc? Ils ne l'ont pas fait.
Mais dans le 2, justement, ils avaient commencé à exploiter ça, tu voyais que quand ils se sentaient pas bien, enfin, psychologiquement,
mais ça a toujours été. Dans le comics, ça y a toujours été.
Ouais, mais c'est dommage que ça, ils ont pas été plus loin, parce que je croyais que c'était intéressant.
Je veux dire, quand il était malade, qu'il avait un rhume, il perdait ses pouvoirs. C'est dès le début d'Amazing Spider-Man, ça.
Mais dans le 2, ils essaient de faire ça, mais c'est dommage qu'ils vont... Voilà, c'est pas suffisamment mis en avant, et ça aurait pu être intéressant.
Bon, ça vient un peu au débat Spider-Man, là.
Oui, bien sûr.
Il y a d'autres films.
Il y a d'autres films. Souvenez-vous, à l'époque, des tétons sur le costume de Batman.
Oh putain, oui.
Mais
c'était sur les Batman de Schumacher.
Burton.
Je vais avouer un truc, à l'époque j'étais fan des films.
De Schumacher?
Oui.
Non. Oh putain,
si, je me souviens même, je crois que c'était pour. C'est lequel avec Jim Carrey là, qui fait le mystère. C'est le 3 ça?
Batman Forever.
Ouais. Je me souviens que au départ on avait eu le droit t'avais une femme qui était là pour donner des trucs Panini là pour mettre des autocollants. Et je me souviens que j'ai dû retourner 3 fois pour avoir des paquets d'images après le film.
J'ai revu il y a pas longtemps le Batman avec Mr. Freeze.
Batman et Robin.
Voilà.
Et en fait, bon, on sent déjà qu'il veut faire du Tim Burton sans en avoir le génie. Mais c'est.
Il a voulu revenir à un côté années 70, plutôt 60 même.
Oui, et il y avait le côté années 60. Il y a eu un moment que j'ai trouvé très drôle. En fait, t'as Poison Ivy, donc qui joue en fait sur les phéromones, tout ça, a un truc de charité, tu sais, où on...
La magnifique Poison Ivy.
Voilà.
Ah ouais, avec Batman et Robin.
Bah, et du coup, en fait, c'est une mise aux enchères pour passer une soirée avec une femme. Tu vois, c'est les riches là qui disent 1 000 $ pour passer, 10 000, voilà.
Ouais,
bah, du coup, c'est Poison Ivy qui est présenté et Batman et Robin vont se battre, tu vois, vont monter les enchères pour être avec Poison Ivy. Et là, en fait, Robin propose, je sais pas, par exemple, 20 000 $. Batman dit 30 000. Robin lui fait « Non, mais tu les as même pas sur toi. » Et là, Batman sort une bad carte de crédit.
Ça,
et fait « Je l'ai toujours sur moi. » J'ai trouvé ça vraiment super drôle. Et le film n'a pas osé aller aussi droit, n'a pas osé, en fait, assumer son côté humoristique années 60.
Mais voilà, ouais. C'était très proche de la série télévisée des années 60 avec le
Boom,
Kappa, ouais, voilà, c'est ça, qui apparaissait à l'écran. Tout en ayant conservé ce côté image un petit peu burtonienne, et c'est là qu'il y a un gros clash, en fait. Et c'est pour ça que ça marche pas. Moi, je sais que le film, pour moi, au bout de 5 minutes, je savais très bien que j'allais voir une merde, puisque quand on voit Batman arriver et qui fait « On se les gèle ici, Freeze », Batman faire des blagues, si tu veux, moi, ça m'hérisse le poil, quoi.
Mais là, c'est par rapport aussi, c'est avec l'univers aussi du réalisateur. Qui colle ou qui colle pas. Tim Burton, tu vois, il a le génie, ça colle parfaitement. Schumacher, il a pas le même univers.
Bah, après, voilà, ça casse la gueule. Sam Raimi sur Spider-Man, j'aurais jamais dit Sam Raimi sur Spider-Man, quoi.
C'est sûr que quand tu vois les autres films qu'il a fait...
Attends, il a fait des très bons films, ça.
Ah non, justement, non, il fait des très bons films, mais je veux dire le genre de film.
L'univers du réalisateur, pour moi, ne correspond pas à Spider-Man.
Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Pourtant, pour moi, le premier Spider-Man n'était pas si mauvais que ça, quoi. Pour une adaptation, ça allait, quoi.
Non, avec Sam Raimi, le truc.
Tête à claque, mais franchement, Peter Parker, quand il est adolescent, c'est une tête à claque, quoi. Déjà, aujourd'hui,
le truc très drôle avec Sam Raimi, c'est que t'as plein de références à l'univers propre de Sam Raimi.
Ah, t'as l'acteur Devil Dead,
Bruce Campbell qui apparaît dans chacun des films. T'as plein de petites références à son univers à lui. Et du coup, c'est vrai que ça plaît aux fans de Sam Raimi. Bah voilà, les fans de Spider-Man, ça plaît un peu moins.
Ils connaissent pas.
J'avais vu.
Sauf si on est fan des deux univers.
Oui, voilà.
Moi, je me souviens que l'acteur, je comprenais pas. Devil Dead, là, comment il s'appelle, Campbell.
Bruce Campbell.
Je le voyais dans les trois films. Je dis, c'est bizarre. À chaque fois, lui, on le voit, il a un rôle différent.
Ouais, mais tu sais, moi, je me disais exactement la même chose.
Petit vieux avec ça. J'ai regardé,
c'était Stanley.
Mais non, à l'époque, je lisais pas de comics. Je vois ça, je le vois dans X-Men, je le vois dans d'autres films. Je fais, putain, mais c'est qui ce mec?
Voilà. Vieux dans X-Men, il arrose son jardin, quoi. C'est magnifique.
Ça, c'est extrêmement sympathique de la part de Marvel, tu vois.
Ça, oui.
Petit caméo de Stanley.
Ça, c'est une idée qui me plaît.
On l'apprend avec impatience, quoi, à chaque fois.
Ouais. Mais où est-il, les gens, honnêtement, on le cherche, et à partir du moment où on l'a trouvé dans le film, tu sais, on se dit, bon, ça y est, je l'ai trouvé. Et il y a moins d'intérêt. Enfin, un peu moins, en tout cas.
Tu prends toujours plaisir à raconter à tes potes. Et bah, tu vois, lui, là, c'est Stan Lee, le créateur de Marvel.
Mais, question référence, le film de Daredevil. Il est bourré de références. Autant le film est pas top, tu vois.
Autant
c'est bourré de références, quoi.
Je disais, si t'attaques les meilleurs films tout de suite, on avait dit qu'on les gardait pour la fin, quoi. Daredevil, Elektra, etc.
Et franchement, moi,
Daredevil, Daredevil est quand même,
Les Tortues Ninja, on n'a pas parlé des Tortues Ninja.
On va y venir,
Attends, franchement, l'effet du sonar de Daredevil est très bien fait dans le film.
Ah oui, moi je trouve qu'il est
bien. On connaît ça quand même.
Il y a des très bonnes idées dans ce film qui ne sont pas mises dans le comics, le caisson dans lequel il dort.
Ouais, par exemple.
Oui.
C'était une très très bonne idée. Maintenant, le choix de Ben Affleck, discutable. Et surtout, la façon de filmer de Mark Steven Johnson, c'est toujours trop sombre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sombre. Alors, je viens croire que Daredevil se passe la nuit, mais quand on ne voit plus rien à l'écran, il y a quand même un souci.
C'est pour que tu te plonges dans l'univers du personnage principal. Toi non plus, tu ne vois rien.
Ouais, mais enfin, quand tu dépenses de l'argent pour aller voir un film au cinéma et tu ne vois rien, il y a quand même un léger souci, quoi.
Oui.
Il y avait des bonnes idées, mais là, c'est pareil. Encore une fois, le choix de l'acteur pour le Kingpin, je me rappelle plus du tout de son nom, malheureusement.
C'est celui-là qui avait joué dans La Ligne Verte.
Oui, dans La Ligne Verte. Colosse, au niveau carrure, il est parfait. Mais le fait de nous faire un Kingpin black...
Pourquoi ça t'a posé problème, ça, c'est ça?
Franchement, là...
Et ben, ça, cause...
ça change. Non, non.
Ça tombe un peu dans le cliché, je trouve. Moi.
Ben voilà, c'est ça. C'est comme par hasard, le méchant est Black, et c'est ça qui me gêne.
Ah, je l'ai pas du tout vu comme ça. Tu vois. Moi, j'ai juste vu. C'est-à-dire que là, tu vois, il y a quelques mois, quand ils ont parlé de faire le reboot de Spider-Man, il y avait un acteur noir qui avait dit que lui aussi voulait participer au casting. Ça avait fait toute une mini polémique aux États-Unis où Stan Lee avait dit, de toute façon, il peut très bien se présenter au casting, on a rien à foutre qu'il soit noir, quoi. C'est, il n'y a, ah oui, a jamais eu aucune chose dans le film en disant Peter Parker doit être blanc. Et du coup, la polémique s'est arrêtée là-dessus, quoi. Mais moi, j'ai vraiment aucun souci. Mary Jane, Gwen Stacy pour être Black, ça ne pose pas de problème. Pareil pour Peter Parker, pareil pour le...
Même que Mary Jane soit blanc, c'est ou... voilà.
Ah non, 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 il y a des choses...
À la limite, il y a des choses qui ne sont pas tendres. C'est une couleur de cheveux. Ça change pas le personnage en lui-même.
C'est ça.
Si ça change le personnage, si justement t'as Gwen Stacy. Si Mary Jane est blonde, comment tu la différencies?
Ah oui, non, non, mais je veux dire, quand je disais Mary Jane blonde, je veux dire que Mary Jane soit blonde et que Gwen Stacy soit rousse ou l'inverse ou brune. Pour moi, ça change pas.
Ouais, je sais pas, ça influe normalement, tu sais, t'as les préjugés au niveau du caractère, et c'est vrai que normalement les rousses sont censées être un peu plus
des préjugés un peu à la
voilà. Un peu plus flamboyante.
C'est, comme ça à l'époque, c'est comme ça que tu faisais aussi les personnages, tu donnais la couleur de cheveux, ça disait déjà
ouais,
la personnalité.
Voilà, à l'époque, c'est sur les stéréotypes. Maintenant, tu fais un film la couleur de cheveux, voilà.
Je vois vraiment des films comme comme pour l'univers Ultimate chez Marvel. Tu peux, le personnage, tu peux lui changer de couleur de peau, voire même un peu d'histoire, ça peut me poser problème, quoi.
Oui, regarde, alors... Nick Fury, ça pose de problème à personne qu'il soit black dans les films.
Et justement, il est utilisé dans les films actuels, il essaie même pas, c'est la version Ultimate qui est utilisée.
Oui, oui,
moi, c'est aussi quelque chose qui me gêne. Moi, ça me gêne. Ça me gêne, puisque on mélange l'univers Ultimate et l'univers 616.
Mais c'est un nouvel univers. L'univers des films est une troisième.
C'est autre chose, autre chose.
Mais c'est là,
ouais, mais
c'est
quand
là que
tu
le
fais
blesse,
un, comment,
c'est
un épisode
que...
comme le premier épisode d'Iron Man qui est quand même pas mal pas mal fidèle à ce qu'était Iron Man, même si ça change d'époque, tout ça, c'était quand même assez proche.
Ouais, alors là, et le changement d'époque est légitime.
Fury qui est noir, ça fait bizarre, quoi.
Le changement d'époque est totalement légitime dans Iron Man. On peut pas décemment adapter ça en disant c'était pendant la guerre du Vietnam, le mec devait avoir 70
ans.
Oui,
voilà, ça gêne pas. C'est un, comment, t'as un auteur français qui s'appelle Pierre Bordage, je pense que vous le connaissez, qui a été amené à travailler sur des adaptations et notamment des adaptations de ses propres livres en bande dessinée. Et il disait que ce qui l'avait intéressé, c'est que quand tu adaptes quelque chose, même il faut, pour rester fidèle, il faut savoir aussi trahir le texte de base, c'est-à-dire que finalement, en fait, il faut savoir changer les choses quand c'est nécessaire. Et donc, on parlait d'Iron Man, par exemple, ne serait-ce que changer l'époque. Voilà, c'est un changement nécessaire parce que tu vas pas commencer aujourd'hui une histoire qui se passe pendant la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, si on se mettait après à projeter l'Iron Man aujourd'hui, ce serait un vieux gâteux qui serait dans une armure un peu bizarre.
Totalement, totalement, ouais, mais voilà. C'est clair. Enfin, après, il y a des choses que l'on peut se permettre de changer et d'autres.
Après, par rapport,
qui font tiquer, quoi.
Par rapport à l'époque, on aurait pu quand même faire le Iron Man ou pas du Vietnam. Tu aurais le Captain America. Les origines vont bien se passer durant la Seconde Guerre mondiale.
Mais c'est Captain America. Alors, quand même Captain America se finit dans la glace. Il finit cryogénisé.
Ouais, voilà. Mais je veux dire, il aurait pu très bien de faire ça sur un autre conflit aussi, Captain America.
Non,
C'est
vraiment un symbole qui est fort si tu le mets dans un conflit qui est vraiment mondial, si tu le mets dans un conflit qui est l'Afghanistan, c'est quand même plus un conflit américain, quoi.
Le Vietnam, il n'y a aucune autre guerre qui pourrait autant mettre le personnage en avant. Le seul truc que tu peux changer après, c'est soit l'époque où il se réveille, là ils feront un truc plus d'actualité pour les Avengers, ou alors tu expliques qu'avec son super sérum, il ne vieillit plus. Et de toute façon, dans un cas comme dans un autre, quelle que soit la période où tu le réveilles, il y aura aucun souci.
Ce qui m'amuserait bien, par contre, dans Captain America, on va voir s'ils le font pas, mais dans l'histoire Marvel originale, ils ont expliqué plus tard que le premier Captain America était noir.
Et puis, ça, ils le feront pas.
Voilà. Non, mais ils pourraient très bien le faire avec Nick Fury. dire que voilà, c'est ce qui a été fait dans Ultimate. Dans Ultimate, Nick Fury a eu le sérum de Super Soldat avant Steve Rogers et s'est enfui. Et il est devenu Nick Fury, enfin le Nick Fury du Shield après quoi. On pourrait très bien faire ça dans le film, tu vois, pour expliquer pourquoi Nick Fury a cette position-là, tu sais, enfin relier, tu vois, le truc à Ultimate. Ça pourrait être intéressant.
On verra s'ils le font.
Mais connaissant les Ricains, tu vois, je pense pas qu'ils vont le faire en disant, regardez, on a fait des expérimentations sur un black, parce que avant de le faire sur un blanc.
En même temps, ce serait. Ouais, mais là, tu vois, comme ça se passe dans les années 40, ce serait beaucoup plus socialement acceptable.
Oui.
Puisque ça représenterait l'époque dans laquelle
ouais,
on vivait.
Ouais, mais est-ce que tu crois franchement que les États-Unis sont prêts à accepter de dire, tu vois, que, bah oui, toutes ces premières lignes, eh ben, on met les Noirs et les Arabes en avant. Parce que c'est ce qu'on fait dans toutes les guerres, quand même.
On a qu'il y ait quelqu'un qui a les couilles de le faire.
C'est toujours été des trucs racistes de dire, hein, voilà, on met les pauvres et les Noirs et les Arabes d'abord.
Le gros souci, oui, c'est dégueulasse, c'est clair, mais bon.
D'accord.
C'était comme ça, c'était l'époque. Malheureusement.
On le fait encore aujourd'hui, hein. Regarde les Ricains qui vont en Afghanistan ou en Irak, hein. Ben, c'est les jeunes noirs.
Il n'y a pas que les Américains qui l'ont fait, hein. La France aussi l'a fait pendant ses propres guerres.
La première guerre mondiale française.
Oui, et puis même.
En France, c'était magique.
La guerre d'Algérie, ce genre de choses. Ah. Voilà. Bref.
Ça, c'est jamais très glorieux, une guerre, de toute façon.
Non. Il y a pas mal d'adaptations dont on n'a pas parlé, et des adaptations qui fâchent. Alors, qui fâcheront peut-être.
T'en as une qui t'attend.
On a des choses comme les 4 Fantastiques, dont on n'a pas parlé du tout.
Ouais, mais c'est peut-être.
Mais qu'est-ce que tu veux dire dessus, enfin, franchement.
Bah, écoute, c'est raté.
Moi, il y a que la torche à sauver.
Moi, j'aurais dit Michael Chiklis.
Attends, la torche est très bien respectée quand même dans le film.
La torche est très bien, moi.
C'est vraiment une petite merde du comics.
Non, la seule qui a sauvé, c'est Jessica Alba, c'est tout.
Non, elle l'a acheté.
Sérieusement, là, j'ai vu, il y a pas si longtemps, c'est passé à la télé.
Oui, c'est passé sur le câble.
Silence en fer. Franchement, Jessica Alba, mais la pauvre, quoi, le rôle de merde qu'on lui donne dans ce film, elle ne fait que pleurer. En gros, tu vois, elle se plaint parce qu'elle a un mariage à faire, que le mariage, c'est toute sa vie, tu vois. Grosso modo, c'est ça, elle est incapable de savoir utiliser ses pouvoirs, c'est une pauvre merde. Enfin, elle est conne comme ses pieds, tu vois, c'est incroyable, quoi, le rôle qu'ils lui ont donné, c'est tout le stéréotype de la femme de qui est conne et qui sert à rien dans le comics.
Donc Kiwi vient de l'habiller pour l'hiver. Peut-être même pour l'hiver prochain avec.
Non mais c'est impressionnant quoi. Dire, sous dans le comics, c'est quand même tu vois, une femme qui, ok, elle a des gamins, elle a un mariage et tout ça, mais elle vaut plus que ça quoi. Dire. C'est le personnage le plus puissant, elle entreprend des trucs, enfin, je sais pas, c'est pas juste la pauvre femme qui se plaint que son mari fait des expériences quoi, faut arrêter.
Bon,
voilà, j'ai fait un gros blanc avec ça, disons.
C'est dit, ça méritait d'être dit, voilà.
Critique Jessica Alba, franchement.
Non, mais je suis complètement d'accord.
Moi, je viens de recevoir un coup de fil de Flipper, il est pas content.
Non, mais regarde, Jessica Alba, dans Dark Angel, tu vois, elle est jouée très bien, et t'es, voilà, c'est très bien.
Dans Sin City aussi.
Hein?
Dans Sin City aussi.
Dans Sin City aussi, voilà. Donc, l'actrice vaut mieux que ça, quoi. On lui a donné vraiment un rôle de merde. Avec la fin de la vie,
voilà, mais de toute façon, les deux films sont le seul truc qui est bien réalisé, c'est La Chose.
Et puis l'acteur est très bon. Moi, j'aime beaucoup Michael Chiklis.
La Chose, vous avez trouvé qu'elle était très bien réalisée, vous ?
Ah, moi, j'ai trouvé que ça choquait pas, quoi.
L'acteur est bon. L'acteur est bon, mais je trouve que le costume, voilà.
C'est pas le costume le plus facile à faire. Hein,
ouais, je me doute. Ouais,
mais... C'est GG quand même. Hein.
Non, moi, ça m'a pas choqué autre mesure, La Chose, tu vois. Qu'est-ce que
l'acteur est bon ?
L'adaptation de Galactus.
En nuage.
Mais en fait, voilà. Tu te demandes à quoi ça sert d'en avoir parlé, parce que il apparaît quoi, 5 secondes, et puis c'est bon, quoi.
Il apparaît.
Oui,
pas
surtout la
ça,
façon hein. de le battre.
Non, mais t'as un nuage qui apparaît, quoi, voilà. Et puis t'as une forme, tu te dis, ah, il y a un truc, ah, bah non, il y a rien.
Donc on voit une ombre à un moment en forme de...
Il y a le visage original de Galactus qui est formé avec le nuage. Si vous regardez bien, on voit le visage de Galactus.
Ouais. Mais bon, c'est l'effet qui sert à rien, quoi. Soit tu le faisais venir, soit tu le faisais pas venir. Tu fais pas ça sert à rien de faire les choses à moitié.
Ce que je veux dire, tu vois, c'est la forme de nuage, pour le coup, c'est vraiment une adaptation, quoi. Ils ont choisi de pas mettre un géant, tu vois, et de mettre une entité cosmique, un nuage.
Mais à la limite, je pense que tu disais, comme ça, on peut faire un 3 avec Galactus et, voilà.
Je pense aussi que c'est pour éviter le ridicule. Ah bah non, en même temps, que veux-tu? Un mec qui s'allonge et un mec en pierre, c'est déjà ridicule à la base. Alors, un mec qui surfe et qui est tout en métal, je suis désolé, c'est encore plus ridicule. Donc, quitte à passer le ridicule, autant y aller à fond et mettre Galactus, quoi.
Voilà. Je trouvais que le nuage n'était pas une si mauvaise idée que ça.
Après, on a l'exemple de Watchmen où ils ont évité le, entre guillemets, ridicule en ne mettant pas cette pieuvre géante.
Oui, mais oui. Ils l'ont pas mis et parce que ils ont tout coupé ce qui l'expliquait.
Oui, oui aussi.
Donc si tu mettais une pieuvre géante, ça servait à rien.
Mais regarde, si tu regardes la construction de Watchmen, ça respecte sur les trois quarts du film exactement le comics et ça prend des libertés juste sur la fin, tu vois. Moi, ça me donne un peu l'impression de, pour faire une surprise au lecteur, enfin, au lecteur et au spectateur, dire regarde, on respecte à fond et sur la fin, tu vois, on choisit de faire une fin différente qui, pour ma part, je l'ai trouvé très bien foutu et assez logique.
Moi aussi, elle m'a plu, la fin.
Oui, mais c'est ce que je vous disais, on adapte, comment on fait les changements nécessaires. Et là, le changement était nécessaire parce que tu pouvais pas parler de la BD, de tout ce qui se passait à côté. Sinon, en plus, ça te faisait prendre trois quarts d'heure en plus du film, quoi.
Mais il y a encore des films qui ils sont faits alors que la BD n'est pas finie et la fin est meilleure que la BD. Je pense par exemple à Kick-Ass. Je sais pas si vous l'avez vu. Je trouve que la fin est meilleure que le comics.
Moi, j'ai adoré le film. Vraiment.
Voilà. Moi, je trouve que le film est meilleur que le comics. Le comics, ça part un peu dans n'importe quoi.
C'est parce que c'est le problème de Millar. Il a toujours, il fait toujours des
ça part bien et après, je sais pas ça, voilà. Mais pourtant, le film, je trouve qu'il est bien.
Oui, c'est carrément.
Et c'est comme encore Scott Pilgrim. Ce qui a été intéressant dans ce film-là, c'est qu'ils ont utilisé le fait de passer au cinéma. Ils ont utilisé le cinéma pour apporter des choses à l'univers de Scott Pilgrim au niveau des effets.
Ah oui, moi j'ai trouvé que là où ça avait été super bien adapté, c'est au niveau des dialogues. Les dialogues sont 10 fois plus percutants dans l'adaptation cinématographique.
Ouais aussi.
La BD, le comic, c'est il y a des dialogues qui sont un peu plats, quoi.
Ah, les dialogues sont très bons dans Scott Pilgrim, quand même.
Ouais, mais
dialogues, mais quelques vannes qui sont très drôles, quoi.
Ouais, mais le film est quand même
le bon percutant. En elle, il est drôle, quoi.
Mais le film, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est vraiment s'approprier. C'est pas qu'une adaptation, ils utilisent vraiment le cinéma pour apporter des nouvelles choses. Au niveau des, je sais pas, tu le vois à un moment qu'il va aux toilettes, peut-être une jauge ou qui est rempli, il va aux toilettes, elle se vide. Plus des petits trucs comme ça qui font, voilà, ça ajoute des éléments à l'univers et ça colle parfaitement.
Ils ont voulu vraiment faire un univers jeu vidéo aussi.
Voilà,
donc,
je trouve que ça colle à merveille.
Beaucoup plus que dans le comics.
Moi, un des soucis qui me gêne avec les adaptations, c'est ce qu'on a pu voir notamment avec X-Men, c'est quand l'univers totalement différent du film, et même des fois un univers de trahison, pour X-Men c'est le cas, débarque dans le comic lui-même. Comme par exemple ces putains de costumes de cuir de merde.
Ah ouais, ça c'est sûr.
C'est ça
passait à la limite, la période cuir. Les autres...
Oui, parce qu'ils revenaient d'entre les morts, à la rigueur, quoi.
Ou t'as même parfois carrément des persos...
Le costume de Cyclope dans le comics, quand il revient juste après avoir défusionné avec Apocalypse, c'est le costume noir qui a été merveilleux.
Voilà, quand il revient d'entre les morts, ouais, c'est ce que je disais.
Mais parfois, t'as même des personnages des films qui apparaissent dans les comics. Tu prends, je sais pas, dans Smallville, t'as Chloé qui apparaît dans les comics.
Oui.
Des trucs parce que parfois, le personnage a remporté un certain cachet. Quoi. Si tu prends X-23, elle est apparue d'abord dans le dessin animé X-Men Evolution.
Et c'est parce qu'elle a très bien marché dans X-Men Evolution.
Voilà. C'est pareil pour Harley Quinn.
Oui, aussi.
J'ai envie de dire, en ce moment, on a le nouveau personnage, alors je sais plus comment il s'appelle, Rescue. Donc Pepper Potts qui devient une Miss Iron Man, ça se sent bien que comme pour Miss Hulk, ils avaient créé Miss Hulk dans le comics par peur que dans la série télévisée Hulk, il a créé avant eux et que du coup Marvel ait des royalties à payer à la série pour utiliser le personnage, ça se sent qu'aujourd'hui ils ont créé une Miss Iron Man au cas où que dans les films il est pas.
Là, ce sera pas vraiment le cas puisque Iron Man est publié par les studios Marvel. Enfin, en tout cas, c'est les studios Marvel qui gèrent. C'est pas un autre studio, quoi.
Et moi, j'ai eu l'impression que c'est surtout que Pepper Potts, elle revient sur le devant de la scène, justement, du fait du film.
Ouais, oui, aussi, certainement, il y a de fortes chances.
Parce que avant, j'ai pas beaucoup lu d'Iron Man, mais je crois qu'elle était plus autant présente, voire absente, quoi.
Bah, il avait un peu remplacé quand même par la secrétaire, par Maria Hill, qui était quand même bien plus intéressante que Pepper Potts. Hein.
En parlant d'Iron Man, t'as Jarvis dans le film qui n'est pas présent, ça devient
un robot. Alors
un
ça,
robot, enfin une voix de.
Oui. Ouais,
une
voix, ouais.
Le clin d'œil est sympathique, mais c'est vrai qu'un vrai Jarvis aurait été plus agréable, quoi. Regarde, on a bien Alfred.
Je pense qu'ils auraient fait un vrai Jarvis, tout le monde aurait dit, vous déconnez, c'est Alfred.
C'est possible.
Voilà. Et à la télé, enfin au cinéma, ce serait pas passé parce que les spectateurs auraient dit non, arrêtez, c'est Alfred. D'ailleurs, Alfred dans les Batman de Nolan est très mal adapté. Alfred, c'est censé être un anglais pur et dur avec un humour anglais. Et franchement, on ne le sent pas du tout dans les Batman de Nolan. C'est assez décevant, quoi. Bah, je tenais à passer mon coup de gueule pour Alfred parce que c'est un personnage que j'aime bien.
D'accord. Mais il a été entendu.
Voilà.
Alfred te remercie.
Ouais. Merci. Et d'ailleurs, je viens de recevoir un mail de Nolan et il en tiendra compte. Il écoute en même temps, donc.
Tu vois, toutes les rumeurs sur le fait que ça va être Catwoman, Bane, tout ça, c'est fou. Son nouveau sidekick, ça va être Alfred.
Attends, ouais. Catwoman, parlons-en.
Ah. Bah voilà, encore un film dont le seul intérêt, c'est Alberi en cuir.
Ouais, enfin son costume, moi je le trouve pathétique.
Oh. Oui, mais voilà, c'est typiquement le genre de film pour faire mousser les petits geeks.
Ouais, mmh. Ouais bah voilà. Pareil,
Elektra dans la même veine. Hein.
Je suis quelqu'un qui pourtant, quand je regarde un film, j'essaye toujours d'aller au bout. Même si le film est chiant, j'essaie toujours d'aller au bout. Je me dis, il y a peut-être une séquence qui va me donner un meilleur avis sur le film.
Et pour la parodie porno de Batman.
On en parlera tout à l'heure.
C'est pour la fin.
Elektra, c'est quand même un des seuls films que j'ai arrêté au bout d'une demi-heure parce que je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. J'avais envie de me suicider. Je regardais mes veines, je regardais mes lacets. Je me dis, je vais peut-être pouvoir me faire une corde, je sais pas.
Non, non, mais c'est le Phantom du Bengale, c'est pas supporté.
Ah,
mais c'est nul à chier. Le Phantom du Bengale. Hein. Non, Elektra, je peux même pas regarder en entier. Mais comme Elektra et Catwoman, tu vois, j'ai même pas vu les films en entier. J'ai dû en voir demi-heure ou trois quarts d'heure.
Il y a un truc qui est un peu bizarre dans les films, c'est que, enfin, je sais pas, peut-être que c'est moi qui me fais une idée, c'est que quand ils mettent en avant des personnages, enfin, des acteurs qui sont connus, tu prends Ben Affleck, Alberi, enfin, etc., ces films-là sont pas terribles. Par rapport à des films où ils prennent des acteurs inconnus, on sent vraiment que ces films-là, ils prennent les acteurs, voilà, et le reste, ouais, ben, ça passe au second plan.
Pour Watchmen, normalement, Ozymandias, ça devait être Jude Law. Franchement, ça aurait été Jude Law qui jouait Ozymandias, ça aurait été génial.
Bon, après, ça dépend les acteurs, mais c'est vrai qu'en général...
Et puis, si tu prends Les Sentiers de la Perdition, Tom Hanks, Jude Law, enfin, il y en a d'autres, c'était un bon film, quoi. Mm. Ouais, car Les Sentiers de la Perdition, c'est une adaptation aussi, donc voilà. Batman...
Christian Bale, quoi.
Voilà. Quand même.
Pareil, History of Violence...
Je connaissais pas, moi. Personnellement, je connaissais pas l'acteur.
Par contre, le problème, c'est que là, ce qu'on voit avec le Batman 3 qui arrive, il y a beaucoup de trucs où ils nous disent « Oui, ça va être machin qui va venir. » Ça risque aussi d'être de l'étalage de people et plus...
C'est le problème avec une trilogie. T'as le premier film, ils mettent le temps d'installer. Le deuxième film, ils sont à l'aise et voilà, ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. Et le 3, c'est les attentes. C'est comme c'est Spider-Man 3, il y a eu trop d'attentes, c'est raté.
Le 3 a été annoncé comme étant plus lumineux que les deux autres. Tu vois, un côté plus gentil, lumineux. Ça me fait bien. Parce que ce qui est sympa dans les Nolan, c'est que justement, il approfondit le côté dark de Batman.
Ah oui, c'est vraiment ce qui est intéressant.
C'est-à-dire le côté lumineux.
Ça fait peur. Ouais.
Et puis en plus, à la base, le 3 était censé être a priori
c'était avec
une suite
le procès du Joker normalement.
Voilà, avec le procès du Joker. Il y a un petit problème avec avec l'acteur.
Ah bon ?
Petit problème. Oui, en effet.
Petit problème. Bah, alors, sauf si tu le mets derrière un rideau où tu le vois pas et t'as quelqu'un qui l'imite, quoi. Mais sinon.
Ça pourrait être drôle.
Ça ferait très Joker, hein, mais.
Non, et franchement, c'est un très bon Joker, hein, dans Batman Dark Knight. Pour le coup, le mec a fait le Joker et en a fait quelque chose de très bon.
Et il en a fait quelque chose de super flippant, surtout, enfin.
Oui, ouais. Je trouve que.
Beaucoup de gens disaient à Nicholson, mais, voilà.
Bah, c'est deux interprétations différentes.
Ouais, c'est deux interprétations différentes.
C'est le côté foufou du personnage. Et Nolan, c'est le côté, sadique.
Pour moi, le Joker de Nicholson, c'était trop le Joker du dessin animé. C'était exactement le même.
Ouais, enfin, sauf que le dessin animé est arrivé après.
Ouais. D'accord. Mais alors, franchement,
ils sont inspirés de lui, alors.
Ouais, c'est qu'ils se sont inspirés de lui, mais pour moi,
c'est toute l'histoire du Joker, hein, qui est aussi comme ça, c'est que quand il est apparu, c'était un personnage qui était hyper violent, et avec tout le Comics Code, le Comics Code Authority, il a dû être un peu ridiculisé, ce qui fait que pendant une vingtaine d'années, on avait un personnage ridicule qui faisait des blagues un peu bizarres, et c'est comme ça que tous les gadgets du Joker qui sont apparus. Et puis après, t'as eu des choses comme The Killing Joke qui sont revenus, qui ont refait un personnage glauque, fort, qui fout les boules, quoi.
Joker qui apparaît dans Batman et Robin, la nouvelle série actuellement, et plus justement dans le style de King Joke, côté vraiment ultra flippant, moins gâché.
Ah ouais, non mais, et puis, enfin, il a...
Il fait vraiment peur, quoi.
Ouais. Là, et puis, il a un aspect assez horrible aussi, il le change, c'est plus le type en costard, quoi.
Ouais.
Si je me rappelle bien.
Ouais, il fait moins ridicule, il est juste flippant, quoi. Il est vraiment, mais pour le coup, vraiment flippant, tu le sens malsain dans sa tête, quoi. Non mais voilà, c'est un peu un retour, tu vois, aux origines du personnage qui est vraiment sympathique, quoi.
Mais c'est comme ça que, c'est comme ça qu'on aime le Joker aussi.
Voilà. Oui. Ouais. Enfin, moi, je préfère comme ça au côté ridicule, tu vois.
Oui.
Bien que le Joker du dessin animé était très bon, quand même. Enfin, du vieux dessin animé, hein, de celui des années 90.
Et justement.
Justement, quand on regarde Batman contre Phantom Masqué, ça devait être ça son nom en français, c'est un Joker qui est fou dans sa tête, qui fait des plans démoniaques et tout ça, mais qui est limite débile, quoi. Je veux dire, il y a une séquence où il se bat contre quelqu'un, il a une hache et un saucisson géant, il prend le saucisson géant pour se défendre. Tu vois, et c'est à mourir de rire, tu es là, mais c'est totalement débile comme truc, tu vois.
Mais la vision du Joker, elle est aussi un peu débile, elle a été grandement influencée par la série des années 60.
Totalement, oui, totalement.
Voilà, donc après... Donc,
au final, on remarque quand même que souvent les adaptations séries et films influencent vachement le comics.
Ouais. Est-ce un bien ou est-ce un mal? C'est là le problème.
Bah après, moi, je dirais que c'est... ça se mélange. Hein, donc,
ouais.
C'est pas trop, ce qui est bien ou pas.
C'est pas nécessairement gênant dès lors où ça attire des lecteurs.
Mmh.
Mais
l'adaptation, c'est ce qui m'a amené. Enfin, comme Nounou, c'est ce qui m'a amené au comics. Hein.
Ça vous problème... a amené au comics et vous avez pu voir que bah c'était différent, que c'était mieux ou que c'était moins bien.
Je me suis rendu compte que les Batman de Schumacher c'était vraiment bien.
Schumacher.
Schumacher.
Les Batman de Schumacher sont pas encore sortis aussi.
Non mais le truc, c'est la grande question, c'est doit-on faire la pute pour attirer des nouveaux lecteurs? Doit-on descendre à ce point-là, parce que les adaptations vous ont amené aux comics. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas retrouvé exactement ce que vous aviez voulu, enfin ce que vous aviez vu dans les adaptations, que vous n'êtes pas resté aux comics.
Non.
Au contraire même.
Parce que moi, je l'ai propre pour autre chose, les films. Moi, c'est Ultimate, l'univers Ultimate, l'univers normal de Marvel. Pour moi, les films, c'est un autre univers.
Regarde Nono, par exemple, quand tu as lu les X-Men vraiment, tu as commencé à déprécier les films.
Eh oui, complètement.
Voilà.
Donc du coup, attends, Nono, tu es arrivé à quelle période X-Men? T'es arrivé pendant la période cuir?
J'en sais rien. En fait, j'ai quand je me suis mis au comic, j'ai acheté beaucoup d'intégrales, notamment les deluxe de chez Panini.
D'accord.
Qui reprenaient pas mal d'histoires, etc.
Donc, non, d'accord. Donc en fait, t'as connu. Voilà. Au final, t'as commencé avec du Uncanny normal, mais non, parce que du coup, enfin voilà, au moment où il y a eu les films X-Men, dans la série, c'est devenu la période cuir par Morrison et Quaty, et oui. C'était mauvais, quoi. C'était enfin voilà, c'était mauvais.
C'est un peu toujours la même chose. C'était aussi une overdose.
Ouais, mais Frank Quitely, il sert des jolis verres d'eau, donc on peut pas trop non plus dire que c'est mauvais.
Ouais, mais alors, attends, je t'avoue que moi, le dessin, j'accroche pas. Voilà, ça arrive, hein, t'accroches pas forcément au dessin, là c'est le cas. Et les nouveaux costumes déjà étaient moches, et en plus, dans le scénario, les personnages commencent à dire, oui, mais tu sais, tous ces vieux costumes colorés quand même, c'était bien de la merde, tu vois. Et t'as Morrison, tu vois, qui commence à dire au lecteur, non, mais tu vois, tout ce qui s'est fait avant que j'arrive, c'était quand même bien de la merde au final, on va changer tout ça, tu vois.
Oui, mais ça sert son truc.
Ouais, mais il trahit tout ce qui s'est fait avant. Dans une série qui est basée sur la continuité, c'est quand même un peu chelou, tu vois.
Donc, alors, là, tu vois, ça, c'est un détail qui te gêne, mais par exemple, en fait, c'est ton interprétation de le voir, de voir que Morrison dit ce qui s'est fait avant, c'est de la merde. Moi, forcément, je l'ai pas forcément vu comme ça, tu vois. Mais, quand on reprend l'exemple du Kingpin de Black, moi je l'ai vu en disant bon comme par hasard le Black c'est un méchant. Et toi ça te choque un peu que j'ai pensé ça?
Ben ouais. Et après, comme quoi tu vois, le problème aussi c'est que
ouais,
je pense
que
ça dépend de la personne après.
Voilà,
c'est voilà, plus par rapport à la personne. T'en as qui vont trouver que, bah, comme toi que il fallait mieux plutôt un caïd blanc pour éviter le cliché. T'en as d'autres qui, voilà, ça dépend de la personne.
Après, si tu regardes dans le comics, il y a quand même très peu de noirs et d'homosexuels, tu vois. Donc, si tu les rajoutes pas au cinoche ou que tu crées pas de nouveaux personnages, hein.
Tu vois, par exemple, un Stick noir m'aurait vachement moins dérangé qu'un Kingpin noir.
Ouais, d'accord, oui. Oui, non,
à
mais
choisir,
je comprends très bien ce que tu veux dire depuis tout à l'heure, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas... Mais,
bon,
ouais.
Bah, sinon, au niveau des adaptations, on n'a pas parlé, c'est de Thor et de Green Lantern aussi.
Qui vont arriver, ouais.
Voilà, qui vont arriver. Surtout Green Lantern pour que Steve attend impatiemment, je suppose.
Ah oui, impatiemment.
Le truc que je trouve vraiment dommage, c'est, mais bon, ça c'est l'ère du 21e siècle qui veut ça, c'est qu'on nous balance beaucoup trop de teasers. Style sur le reboot de Spider-Man, entre les photos volées des cascades, les différentes photos du costume, etc., ou même Thor, le premier trailer de Thor qui est sorti à la Comic-Con, t'as l'impression d'avoir vu tout le film, alors que le film, il sort un an après. Et c'est encore pire avec Spider-Man, parce que le film sort dans 2 ans, et t'as l'impression de tout connaître. Tu sais que c'est Gwen Stacy, tu sais que c'est machin, machin, machin. Et du coup, tu te dis, ouais, bah nous, fans de comics, ça va être quoi notre surprise quand on va aller au cinéma?
On n'en aura pas.
On n'en aura pas, parce qu'on se sera gavé des teasers. Et de toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé d'être gavé des teasers, parce que dès que tu fréquentes un site qui parle des comics, forcément, tu tombes sur les photos promo, sur les trailers, etc. Et moi, je trouve ça vraiment dommage.
D'autant plus dans notre branche, quand on essaye d'informer un petit peu le public, quoi. On est obligé de se les taper, quoi.
Non, mais attends, surtout que après, si tu regardes, Marvel fait ça tout le temps. Je veux dire, tu compares Marvel et DC, t'as pas beaucoup de teasers et t'as vraiment des surprises quand tu lis le feu.
DC, excuse-moi, sur le dernier Batman, c'est pareil, on sait quasiment.
Non, mais je veux dire, dans le comics normal, tu vois.
Oui.
Je veux dire, DC, t'as quand même pas tant de teasers que ça. Il y a vraiment des morts de personnages, ou du style Batman Inc. qui avait été annoncé, mais on savait pas trop ce que c'était. Il a fallu attendre de lire pour comprendre ce que c'était. Alors que chez Marvel, je veux dire,
quand même,
semaine, t'as 5 teasers par semaine, quoi, au minimum.
Oui.
Et on sait tout ce qui va se passer. Je veux dire, quand ils ont annoncé un an à l'avance, un Vengeur va mourir, tu vois. Et tu vois, le seul Vengeur qui est mort, c'est celui qui a les cheveux longs, tu sais très bien que c'est Sentry, quoi. Je veux dire, si un an à l'avance, tu sais quel personnage va mourir, quoi, t'en as rien à foutre quand tu le lis, franchement.
Bah
les
oui.
gens, tu dis que Sentry est mort, ah bah oui, bah écoute, ça fait un an que je le sais, Coco. C'est bon, quoi. Donc,
oui.
Et j'ai l'impression qu'ils font la même chose pour les films. Marvel communique beaucoup trop.
Mais de même que leur plan de faire des films, par exemple, on a maintenant toute la séquence Avengers, on sait qu'on va avoir Captain America, on va avoir Thor, ensuite on va avoir Avengers en 2012, et on sait déjà qu'on va avoir Iron Man 3 en 2013. Avait-on besoin de savoir qu'on allait avoir le 3 avant même que le 2 soit sorti?
Ouais.
Est-ce que finalement on se gâche pas le plaisir en disant bah peut-être qu'ils vont, on se doute bien qu'Iron Man va pas mourir dans le film?
Ah, mais... c'est comme Captain America, voilà. ils sont apparemment déjà embauchés des scénaristes pour écrire le 2.
Oui, ouais, mais en même temps, on sait que Chris Evans a signé pour 9 films avec Marvel.
Ouais, voilà.
Attends, il a fait 9 films de Captain America ou...
avec
non,
Marvel.
Non, mais à mon avis,
c'est comme Nick Fury, c'est avec des caméos et tout ça aussi, donc.
Voilà, mais on va avoir forcément une trilogie Captain America.
Ouais, c'est déjà prévu pour être une trilogie Avengers aussi.
Voilà. Ouais. Donc ça va être déjà 6 films. Pour le peu qu'ils nous sortent un film sur la Sainte Trinité Marvel.
Mais je sais pas, j'ai envie de dire, tu vois, Marvel, au bout d'un moment, arrêtez de faire tout et n'importe quoi en film et essayez de faire des dessins animés de meilleure qualité, tu vois.
Ah, je viens de recevoir un mail de Joe Quesada et il prend note.
Justement, les dessins animés, parlons-en un petit peu.
C'est fou comme les gens prennent note, tu vois, de ce que je dis. Ouais.
Non, mais on est vachement...
influence.
On va parler un petit peu des dessins animés parce que c'est vrai que c'est une branche d'adaptation dont on a encore que très très peu parlé.
Ouais.
Y a eu tout un tas de dessins animés au fil des années... des choses comme Batman, mais aussi des choses comme Spider-Man, comme les X-Men. Ah. Qu'est-ce qu'on a eu encore? On a eu des films, principalement, ces dernières années. On a
les Tortues Ninja.
Les Tortues Ninja, oui. Avec sa séquence de films, sa belle trilogie. Et puis ses dessins animés.
Mais on se rend compte, par exemple, pour les films, là, dessins animés, que DC, ils comptent plus là-dessus.
Mmh. Enfin,
tu vois, ils sortent beaucoup plus de films, en dessin animé qu'au cinéma.
Ouais.
Par rapport à Marvel ou, enfin, tu vois que la stratégie n'est pas pareille. On sent que DC, je pense, il préfère plus plaire aux fans en utilisant le média du dessin animé qui permet d'être plus fidèle que Marvel qui veut absolument, voilà, toucher tout le monde.
Il suffit de regarder toutes les adaptations.
DC cherche à atteindre aussi un public peut-être plus jeune.
Ouais, ouais. Peut-être aussi.
C'est pas plus
jeune. Ouais, Marvel, c'est la machine Afrique.
Ouais, voilà.
Clairement, encore plus depuis qu'ils ont été rachetés par Disney. Marvel, c'est vraiment de la machine Afrique, et leur but, c'est d'engendrer le plus de pognon possible avec leurs adaptations.
Ouais, enfin, faut quand même pas oublier que DC, c'est Warner, hein.
Mais c'est pareil non plus, ouais.
Mais pourtant, il y a pas autant de films.
Non, il n'y a pas plus de frics, de films, pardon. Si on regarde dans l'histoire, il y a quand même beaucoup plus d'adaptations Marvel que d'adaptations DC au cinéma. Ouais. DC a capitalisé principalement sur deux franchises, Batman et Superman.
Et Superman.
Et puis, voilà. Pour un Superman qui est aussi bien que Pouce, quoi, donc,
Il y a vraiment ces deux-là. Après, on a Wonder Woman.
Que tu as dit, Sik.
C'est pour un Superman qui est aussi bien que mes pouces.
Oui.
Bah,
qui
quand je l'élève, quoi, je fais super. Enfin, il était pas très très bien, quoi. Aussi,
je reviens de comprendre.
C'est pas grave.
Si on regarde, on a eu la série Wonder Woman, la série live à la télé. On a eu aussi une obscure série Superboy dans les années 80.
Oui, je m'en souviens.
Non, pas de, la série Hulk aussi.
Je me souviens de rediffusion de la série Superboy.
Ouais, alors, en fait, ils ont vraiment capitalisé sur deux choses. On a Batman et Superman en franchise ciné. On a eu un Swamp Thing, mais qui est très vite tombé dans les limbes. Et puis, on a une franchise de série télé, donc avec Wonder Woman, Superboy, Lois et Clark, et puis Smallville et Flash aussi.
Flash, voilà.
Et puis ensuite, c'est des dessins animés. Donc on a les Batman, on a eu la série animée Superman, Justice League.
Il y a All-Star Superman qui sort là dans
Patrick. Ouais, enfin ça c'est plutôt un long métrage. Je parlais de séries animées à épisode.
D'accord.
Pour le moment. Donc on a après les différentes adaptations Batman et puis on a Brave and the Bold plus récemment et Young Justice qui a démarré aux États-Unis il y a de ça quelques mois.
Il y a aussi eu Static Shock par exemple. Je crois que chez DC.
Ouais.
Et puis il y a eu les Teen Titans.
Ouais.
Ouais, oh, elle était super, quoi. Elle était complètement barrée, cette série.
Il y avait une série aussi Superdog.
Oui, Crypto.
Oui. Ouais, Crypto. Oui.
Voilà.
Crypto.
Alors que chez Marvel, donc on a cette série de films depuis une quinzaine d'années. Et puis les séries animées, on n'en a pas eu tant que ça. On a eu Spider-Man, on a eu les X-Men, et puis
il y a eu Wolverine et les X-Men.
Ah oui, il y a eu Wolverine.
Il y a eu les 4 Fantastiques aussi.
Ouais, les 4 Fantastiques. Sauf erreur de ma part, c'est pas passé à la télé française.
Non.
Si, ça passe sur Disney XD. Disney XD.
Ah oui, alors.
Donc vraiment sur le câble.
Des chaînes que tout le monde a, tu vois, on va dire la TNT.
Sur CanalSat. Voilà. Ah non,
tu vois, c'est pas une chaîne que tout le monde a, tu vois, c'est pas non plus un impact aussi fort que quand ça passait sur France 3.
Il y a aussi la série,
plus récemment.
Puis là, il y a Avengers, qui a commencé à être diffusé.
Et Marvel Super Hero Squad.
Ouais, bah, finalement, Marvel commence à produire de plus en plus de dessins animés.
Quand on regarde,
je sais pas si vous avez vu, c'est il y a les studios japonais qui ont racheté, la licence. Voilà.
Marvel,
je sais pas si vous avez vu le teaser mal, hein. Wolverine.
Oui, j'ai vu.
Wolverine. Ouais, non, moi j'ai vu un gars avec des griffes, mais.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais là, ils
reprennent. Et là, ils ont sorti le teaser X-Men.
Ça, je préfère pas le voir.
Non, bah oui, on va éviter.
En fait, t'as l'impression de voir un peu, je sais pas, les chevaliers du Zodiac, tu vois, dans des costumes d'X-Men. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Après, en fait, c'est aussi la culture. Vraiment...
Donc, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'escaliers dans cette série. Beaucoup. Non, parce que c'est quand même l'ennemi le plus important des chevaliers du Zodiac, c'était les escaliers, quoi. Quand on voit le nombre qui vont en monter, c'est
quand même... On a vraiment une baston entre Marvel et DC sur les adaptations qui ont vraiment des idées différentes. C'est-à-dire que Warner n'ose pas trop capitaliser sur les succès des films, sauf depuis Dark Knight. Et puis on a Marvel qui balance tout ce qu'ils peuvent en film live, quoi. Les adaptations dessins animés, ils s'y mettent que récemment parce que, enfin, principalement récemment.
Ils commencent à être rattrapés aussi.
Ah oui, parce que
ça, ils commencent à se rendre compte qu'ils ont bientôt fini de filon.
Et oui, et puis DC a toujours bien marché avec ses adaptations dessins animés, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, quasiment tout le monde a vu des adaptations DC en dessin animé.
On va bientôt arriver à la... Ça va s'inverser dans quelques années. Pour moi, on aura plus d'adaptations DC et plus de dessins animés Marvel.
C'est vrai que quand je réfléchis au dessin animé Marvel, ce que je retiens, c'est la série X-Men des années 90, la série Spider-Man des années 90, et après, c'est le gros trou jusqu'à Wolverine and the X-Men, quoi. Parce que la série X-Men Evolution, pour moi, c'était une daube, hein, donc...
Ouais, mais
j'ai le droit de dire que moi j'ai bien aimé.
Ah mais t'as le droit, bien sûr. Pour moi c'était une double.
Mais alors tu trouves pas que les dessins animés sont plus fidèles comparés aux films?
Mais moi pour ma part j'ai tendance à préférer les adaptations dessins animés que les adaptations cinématographiques dans l'ensemble. Mais il faut dire que dans les dessins animés tout est permis. Ce qui n'est pas forcément le cas au cinéma.
C'est que aussi le dessin animé, ça te permet, ça, étant donné que t'as plus de temps, plus de largeur, tu peux te permettre plus de choses, contrairement à un film où tu as quand même le format 2 heures à peu près, où tu peux pas dépasser, donc il faut faire des coupes.
Ah, t'as aussi le budget, hein, je veux dire.
Oui, voilà.
Dans un dessin animé, tu peux te faire des explosions, voyager dans l'univers, etc. Alors que dans un film, bon, t'es un peu limité quand même.
Il y a aussi quand même le côté dessin qui est vachement plus proche de ce qu'on a dans le comics aussi, que avec des acteurs. Parce que le choix des acteurs n'est pas toujours très judicieux dans des films.
Le choix du dessin n'est pas forcément non plus.
Pas forcément, mais ce sera toujours plus proche d'un comics.
Ça passe mieux.
Voilà.
Ouais, que... Même pour les costumes, par exemple, t'as des costumes.
Un peu, rappelez-vous de cet affreux Spider-Man en image de synthèse.
Oh oui, la version de MTV en 2003. Oh. Ouais. Avec un Osborn blond et à côté de la plaque.
Mais j'ai l'impression que ces dernières années, en fait, les dessins animés, ça a été vraiment beaucoup plus adaptation et prise de liberté que dans les années 90, où ça suivait, c'était relativement très proche de ce qu'il y avait dans le comics. Au niveau X-Men, il y a eu quand même beaucoup d'histoires qui étaient très proches de ce qui s'était passé dans le comics.
Ouais, avec quand même des adaptations et des grandes largeurs qui sont prises. Hein,
voilà. Et alors qu'aujourd'hui, enfin, regarde Amazing Spider-Man, c'est pas la même chose, quoi, que...
Ouais, regarde Wolverine and the X-Men. Mais Wolverine and the X-Men, moi, ne m'a pas gêné au niveau continuité, puisque on part de quelque chose et on dérive sur totalement autre chose. Ça m'a pas dérangé. Là où X-Men Evolution m'a franchement dérangé, puisqu'on est trop proche des X-Men de départ, et finalement, il n'y a rien des X-Men dedans. On te le vend comme un truc X-Men, et finalement, c'est pas vraiment le cas.
Ah si, ça change un dé qui est chauve.
Ouais, non, mais enfin, je veux dire, avec Wolverine and the X-Men, on a plus l'impression d'un Days of the Future Past ou un truc comme ça, quoi.
Mais en fait, X-Men Evolution, ça s'est rapproché pas mal du comics sur sa fin. C'est-à-dire que quand il commence à faire venir Apocalypse et tout ça dans les séries, là, ça commence à pas mal ressembler au comics, quand même. Mais du coup, enfin, ça met plusieurs saisons à y arriver, quoi.
Faut déjà se taper plusieurs saisons.
C'est ça. C'est ça, avec des épisodes qui sont pas forcément très bons, quoi.
Le dessin animé Tortue Ninja était assez était exceptionnel, hein, je suis désolé.
Ah oui, c'était très très bon, mais totalement différent de ce qu'on avait dans le comics.
Ah ouais, ouais, non, mais c'était quand même magnifique. Hein.
Moi, franchement, ça m'a vraiment toujours fait rire, quoi.
J'étais jeune, donc c'est vrai que moi, je regardais ça, j'étais devant la télé, j'avais mes figurines Tortue Ninja, voilà.
Mais encore une fois, c'est l'adaptation, tu vois, qui se retrouve dans le comics, parce que je sais que c'est dans les dessins animés que les Tortues Ninja ont eu les bandeaux de différentes couleurs. Ouais. Alors qu'à la base, dans le comics, ils ont tous un bandeau rouge. Enfin, c'est encore une fois, on se rend compte que les films adaptation, ça peut influencer pas mal si quand c'est un succès.
Ouais, mais là encore, est-ce vraiment gênant?
Ce changement. Tu sais, il y a des puristes qui vont dire, ouais, non.
Bah, ça permettait de mieux les reconnaître.
Ouais.
Oui, pour les gamins, c'était peut-être pas plus mal.
Voilà. Des petites libertés qui sont prises comme ça, ça va. Quand ça influence vraiment trop, c'est peut-être pas la meilleure solution, quoi. Je pense que le changement de bandeau ne change absolument rien.
C'est sûr, si dans quelques temps on apprend dans le comics que Charles Javier, d'un seul coup, il se rend compte que ses cheveux repoussent, ça va pas le faire.
Non, ça fera pas.
Les cheveux repoussent.
Le personnage retrouve ses cheveux, quoi. C'est un truc qui a jamais été fait, ça, dans les X-Men. Que Xavier mette une moumoute ou...
On pourrait peut-être nous faire une mini-série X-Men R, tu vois.
Oh.
Où ça chante tout le temps, comme la comédie musicale.
Et tout le monde finit à poil. Ouais. Magnifique. Quoi. Et après, tu peux enchaîner sur le X-Men par Manara et Claremont.
Ouais. Ouais, ou pas.
Bah,
ce qu'on n'a pas parlé, c'est de l'inverse. C'est... des films, des animés qui ont donné naissance à des comics.
Oui.
Oui, bah l'un des meilleurs exemples, c'est Buffy.
Ouais.
Exactement. Ouais.
Qui câble affectionne particulièrement.
Puis qui a un assez bon succès, mine de rien, aux États-Unis.
Et encore, je crois, il n'y a pas eu d'abord des films avant.
Il y a eu un film qui était une bouse avec celui qui jouait Dylan dans Beverly Hills. je l'avais vu à l'époque, il avait été rediffusé sur le câble, j'avais regardé comme ça pour le fun, et il a bien fait d'en faire une série, quoi.
Ah, le film était pas bon.
Et c'est même étonnant qu'ils aient misé comme ça à faire une série sur un film hyper mauvais.
Ah, d'ailleurs, parce qu'en plus,
le film sert de base parce que la série elle commence après que après le film quoi. Donc
oui.
C'est pas on recommence, c'est non on prend à la suite.
Oui, on prend la suite et on revisite un peu les origines par la suite. Bah.
Et en plus pour Buffy, ça a donné un comics, mais c'est carrément une suite en fait.
Oui,
actuellement, voilà,
c'est la saison 8.
Ils auraient pu faire quelque chose de complètement différent et finalement ils ont décidé de faire de fonctionner encore par saison mais sur le papier.
Oui, mais parce qu'il y avait une première série de Buffy. Hein. Faut savoir qu'il y a une première série qui a duré 62 épisodes.
Ah ouais.
Avant qu'il y ait eu la saison 8.
Ah ouais.
Je crois que l'actuelle série de comics Buffy, ils font un concept un peu bizarre de dire un épisode de 25 minutes est un épisode de 25 pages en fait. Tu vois, et je suis pas sûr que ça puisse très bien marcher pour une série comme était Buffy.
Ouais, c'est pas pareil.
Résumé 25 minutes d'épisode en 25 pages, je trouve ça un peu short. Quoi.
Pour ce que j'en ai lu pas mal et dire un épisode égale 25 pages, moi je dirais c'est faux parce que t'as des passages qui sont beaucoup plus rapides et tu te dis t'as deux ou trois épisodes qui font deux ou trois numéros qui font un épisode et t'en as ou qui sont vraiment très denses et t'as envie de dire celui-là je le coupe en deux pour faire un épisode. Donc c'est un peu bête de dire ça, je pense.
D'accord. Non, c'est juste que j'ai entendu parler de ça.
Ouais.
Donc Jérôme, tu es bête, hein.
Tu es bête.
Et tu remarqueras que j'influence Quesada.
Ainsi que Christopher Nolan.
Et explique que Brand New Day, tu vois. C'était moi à la base.
Ah. Non mais Buffy, il y a eu Angel également, il y a Spike,
ouais,
ils ont fait pas mal de dérivés de la série Buffy en comics derrière.
Et puis on continue de capitaliser sur ce genre de succès puisqu'on a maintenant une série Charmed qui sort en comics 10 ans après la fin de la série.
Ouais. Mais moi je dirais
t'as Firefly aussi.
Oui, Firefly.
Voilà, ce principe-là est vraiment pas mal parce que quand les chaînes ne veulent plus sponsoriser, ne veulent plus créer et continuer à payer pour une saison supplémentaire, etc. Le fait de se reporter aux comics books, finalement c'est pas plus mal parce que ça permet aux fans de continuer à avoir une suite, alors que sinon ils l'auraient jamais eu à la téloche, quoi.
Bien sûr. Surtout quand ça se finit bizarrement, par exemple, ils ont aussi ils vont faire une troisième saison, je crois, à Jericho,
oui.
où la série elle a pas vraiment de fin. Donc
Mais ils avaient déjà tenté le coup, ça s'est vite cassé la gueule, et là ils recommencent encore, cette fois-ci chez IDW. Moi je dis pourquoi pas, franchement c'est une très bonne idée de continuer comme ça.
Ouais. Et puis après, t'as aussi des choses qui sont là juste pour faire des histoires en plus, comme par exemple, là on part dans l'anglais, mais Doctor Who.
Ouais.
Y a beaucoup d'adaptations, mais par exemple, pour ceux qui sont des aficionados du deuxième Docteur, ils peuvent avoir des histoires du deuxième Docteur qui sortent encore, parce que c'est en comics.
Ouais.
T'as même des franchises aussi qui continuent, je sais pas, SOS Phantom par exemple.
Oui.
Ouais.
Qui est en comics, soit que ça rajoute, je sais pas, j'ai jamais lu, mais ça rajoute encore en plus dans l'univers.
Et puis il y a Star Wars, on oublie Star Wars.
Star Wars, bien évidemment.
Star
Wars qui comment, enfin, en plus au niveau de, il y a des séries qui exploitent vraiment bien la chose, quoi. Moi je pense à KOTOR ou Legacy qui sont des séries vraiment magnifiques, je trouve, parce que en plus elles sont éloignées de l'univers de base des films, ce qui fait que ça permet de prendre plein de libertés et tout en restant dans l'univers.
Oui, parce qu'il y a des séries en fonction.
Star Wars, c'est que au final, l'univers Star Wars il est bien plus intéressant en dehors des films que par les films. Tu regardes des jeux vidéo ou des BD.
Attention à ce que tu dis là.
Tu vas te faire des ennemis là.
Oui, je sais bien. Écoutez, je vais fâcher le public. Star Wars n'était pas si bon que ça. Voilà.
Ah là. C'est là.
Bon, alors attends, comment on fait pour raccrocher Jérôme?
Non, mais il faut savoir quand même que dans l'univers Star Wars, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y a différentes périodes. Il y a la période du film, il y a la période qui se passe après, il y a les périodes qui se passent avant, et il y a différentes séries en fonction de la période. Il existe aussi tout un tas de romans qui explorent l'univers. Enfin, il y a énormément de choses, en fait. On a le même cas avec Star Trek. Star Trek aussi continue à une énorme longévité en comics, continue encore chez IDW, et en fonction des équipages, on a différentes séries.
D'ailleurs, je pense que j'ai pas expliqué pour ceux qui ne savent pas, donc KOTOR, c'est Knight of the Old Republic, c'est-à-dire les chevaliers de l'ancienne République, ça se passe 2000 ans avant la trilogie de base, je crois.
Avec et de donc, très bons jeux vidéo sur cette période.
Oui, également. Et donc voilà, ça se passe sur la formation de la République et du corps de Jedi, je crois. J'ai lu comme ça rapidement, mais c'est très, enfin ce que j'ai lu c'est très bon. Et Legacy qui se passe un peu plus longtemps après après la trilogie de base. Et là c'est le dernier des Skywalker, Cade Skywalker, Skywalker, qui lui fait face finalement à son héritage, puisqu'il veut pas vraiment devenir Jedi, du moins au début en tout cas, parce que je suis qu'au début. Et surtout qui fait face à des sites qui ne sont plus deux, mais une vraie légion. Donc voilà. Après, c'est...
Dis-moi si je me trompe, mais normalement, justement, dans tout l'univers Star Wars, tous les BD, les films et les jeux vidéo forment une seule continuité, non?
Oui.
Tout est...
Oui.
Voilà.
Oui.
Tu as des choses
sur Internet, une chronologie avec toutes les choses.
Et tu as des choses qui rentrent dans la continuité, des choses qui n'y rentrent pas.
Okay.
C'est oui, faut aller voir la page wiki anglaise notamment de Star Wars et là il y a des tonnes et des tonnes d'infos sur ce qui existe et ce qui rentre pas. Mais on a d'autres cas hein. Par exemple tout récemment aux États-Unis on a sorti une série Batman Beyond qui va au-delà du dessin animé.
Oui.
Et là encore plus récemment il y a eu Bob l'éponge.
Oui. Oui.
Comment parle-t-il de Bob l'éponge alors justement?
Bah, j'ai déjà écrit mon Unspoken
qui va sortir ou qui sera peut-être même déjà sorti au moment où ça va ce sera peut-être déjà publié.
Les Rescue Rangers et les Tic et Tac, de toute façon c'était Tic et Tac, Rescue Rangers, tout ça. Est-ce que ça existait en comics avant le dessin animé?
Pas que je sache.
Parce que autant Picsou, ça c'est étrange.
Ah j'en sais rien en fait.
Tout ça existait avant le dessin animé et maintenant ils font un dessin animé basé sur... enfin ils font une un comics
alors...
basé sur l'univers du dessin animé. Tu as DuckTales, où ça reprend, mais où il y a Flagada Jones, tout ça, qui étaient des personnages qui n'existaient pas du tout dans l'univers Disney original de Picsou, quoi, qui ont été des personnages créés pour le dessin animé.
Si je peux intervenir,
oui
l'univers Disney, ça commence sur le papier. Il y a eu il y a eu quelques dessins animés au départ, et en fait, il y a eu une grosse exploitation au niveau de la bande dessinée. Par exemple, tu avais Super Dingo, enfin, Super Goofy. Si vous connaissez. Et les dessins animés sont contemporains et en même temps ils sont à part, c'est-à-dire que il y avait pas la même chose sur le support papier que sur le support télévisuel. Même si les personnages se ressemblaient ou étaient les mêmes, c'était pas les mêmes histoires, c'était pas les mêmes contextes, ce qui fait que c'était vraiment un ensemble et que c'est parfois difficile de faire une dérive. Par contre, pour ce qui est de Chip and Dale, je pense que ça a été vraiment que dessin animé, puisque avant ça appartenait à l'univers télévisuel de Picsou. Pas Picsou, de Donald.
D'accord.
Voilà. Mmh. Bon, après,
je suis pas un expert de Disney. On va peut-être juste préciser pour ceux qui ne savent pas. Chip and Dale, c'est le nom original de Tic et Tac.
Eh oui,
là,
désolé.
Sinon,
c'est pas les Chip and Dale.
Voilà, c'est pas les mêmes.
Voilà. Mais ouais, et puis on oublie aussi il y a comment des films qui permettent de mettre en valeur des personnages comme Blade.
Oui.
Voilà, qui en plus c'est une période un peu bizarre au niveau de Marvel où il y avait des gros problèmes de droits pour adapter les personnages, ce qui fait que bah ils ont décidé de prendre un personnage un peu inconnu qui s'appelait Blade et ça a permis de le mettre après sur le devant de la scène.
Effectivement. C'est vrai que c'est un sujet qui est quand même relativement inépuisable, les adaptations, et d'autant plus aujourd'hui, puisque avec tout ce qui arrive,
on n'a pas parlé de Ghost Rider,
de Barb Wire,
de
Steel, de Nick Fury par David Hasselhoff. Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé.
Et champion de tous les temps, David Hasselhoff.
Exactement. Non, mais il y a énormément de choses dont on n'a pas parlé. On aurait très bien pu parler aussi du Green Hornet, sorti tout récemment.
Oui, que je conseille, vraiment.
Conseillé par Nono, allez-y.
Oui.
Il y a le Superman indien aussi.
Ou alors, si on commence à partir dans le Bollywood... Parce qu'on peut aussi parler des Superman mexicains.
Superman indien, il fait un caméo.
Et puis on était aussi quand même censé finir sur le porno Batman.
Oui, bon, on va pouvoir s'en passer, je pense.
Ouais.
Voilà.
Ça va être dur d'en parler.
Là, ça, oui, c'est le cas de le dire.
C'est, ouais, c'est inépuisable.
Non, c'est un sujet où, franchement, on pourrait encore parler pendant des heures. Malheureusement, les règles du débat nous imposent de nous arrêter.
Je suis très curieux de connaître l'avis de Steve quand Green Lantern sortira. Je pense que ça méritera un spécial.
On pourra sûrement en reparler. C'est peut-être un sujet sur lequel on reviendra, où on explorera peut-être certaines franchises plus.
Et en plus ça fait très film, parce que Comics versus Adaptation 2, le retour, tintin.
Exactement. On vous fera peut-être la trilogie.
Trilogie. Ah oui, voilà.
Non, parce que pour la trilogie, il faut des effets spéciaux, et là.
Voilà. Oh, et il faut des guests.
Ah, ben ça
Ouais, voilà. Il nous faut des personnes connues.
On a Nono pour faire le Perforas.
Nono, tu es rentré en contact avec Chris Nolan. Demande-lui s'il veut bien participer.
Hein. Oui. Voilà. Ouais. Ah, bah, il vient de m'envoyer un mail, c'est ok.
Ok, très bien. Bah, on va prendre date avec lui.
On a des questions à lui poser.
Donc, bah,
j'aimerais bien qu'il fasse un film Spider-Man, tu vois, sur le contrat avec Mephisto pour annuler le mariage. Comment ça serait plus au cinéma?
On va finir ce débat, si on peut dire, pas complet, mais je pense qu'on y reviendra peut-être dans les prochains mois. On en reparle très vite. Par un dernier petit tour de table avec, pour vous, la meilleure adaptation comics.
Ouf.
Waouh.
Oh là là.
Tu passes une demi-heure là.
Non, mais juste sans forcément détailler trop pourquoi, rapidement, ce qui vous a le plus plu dans ces adaptations comics, celles que vous retenez comme ça, quoi.
Ah, tu m'aurais dit celles que j'attends le plus, ouais, mais là...
Ça... Eh ben pourquoi pas, ajoutons celles qu'on attend aussi.
Ouais.
Parlons pas des déceptions, sinon on va y en avoir trop.
Ouais, ah, non.
On va commencer par toi, Fuch.
Merci.
Bah écoute.
Alors, moi, un seul de film qui m'a marqué.
Ouais, celui que tu pourrais regarder plusieurs fois.
Récemment, il y a le. Voilà, c'est. Bon, allez, moi je veux dire le Kick-Ass.
Ah ouais, quand même.
Le Kick-Ass, c'est. Ouais. Quand qui même. M'a vraiment. Enfin, c'est plus par rapport au fait que. Par rapport à la BD, c'est vraiment mieux. Okay. Après, il y a plus de films encore qui sont. Enfin, t'as les premiers Superman, t'as Batman de Burton. Là, je dirais Kick-Ass. Parmi tant d'autres.
Ok, très bien. Kiwi.
Moi, je dirais le dessin animé des années 90 de Batman, où il y avait des épisodes qui étaient quand même super sombres et qui du coup donnaient vraiment le côté Batman de la série. Voilà.
D'accord. Et Fuch nous a pas précisé ce que tu attendais.
Moi, ce que j'attends, alors
le plus.
J'attends deux films, le Captain America et le X-Men, pour une seule raison, c'est que ils vont se passer dans des époques qui ne sont pas, c'est pas l'époque actuelle.
D'accord.
C'est ce qui m'intéresse.
Kiwi, voilà. dans tes futures attentes?
Bah pareil, écoute, surtout le Captain America, un peu moins le X-Men, mais ouais, justement, bah, Captain America pour le côté Deuxième Guerre mondiale où ils ont l'air d'être partis bien en trip sur les décors et X-Men, j'hésite un peu parce que X-Men 3 et Wolverine étaient vraiment bien des merdes. Et du coup, faut voir quand ça va sortir, ce que les gens en disent ou pas. Voilà.
D'accord. Nono.
Alors moi, celui que je retiendrai et que je peux voir en boucle, c'est Sin City. Ça a vraiment été un choc et j'ai lu tous les bouquins, etc. Et voilà, Frank Miller, on pourra dire ce qu'on en veut, c'est quand même un niveau dessin, voilà, il y a pas grand chose à en dire.
Après, au niveau réalisateur, on regardera The Spirit et on se fera son propre.
Oui, voilà.
Ça s'est fait.
Excellent, ce film. Réalisation parfaite, The Spirit.
Non, mais sur Sin City, c'est vraiment, c'est le film que je peux voir, en boucle sans aucun problème et que je conseille vivement. Maintenant, celui que j'attends, alors ça va peut-être surprendre, mais je l'attends en fait depuis hier, c'est la suite de Wolverine, Origins. Parce que hier, je suis allé voir Black Swan par le réalisateur Darren Aronofsky, il me semble.
Oui, c'est ça.
Et vu ce qu'il a fait sur Black Swan, je suis vraiment, vraiment curieux de voir ce qu'il va faire sur Wolverine.
Alors, on en discutera en off, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur la réalisation de Black Swan, qui est d'ailleurs merveilleux. Faut aller voir Black Swan au cinéma, les gens. Ça n'a rien à voir avec les comics.
Ça n'a rien à voir avec les comics, mais vu ce qu'il en a fait.
C'est une grosse claque dans sa gueule, quand même, Black Swan.
Ouais. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire sur Wolverine.
Darren Aronofsky n'est pas un débutant dans l'adaptation de comics, il avait fait The Fountain aussi, qui était un comics à la base.
Connu la Sophia Requiem for a Dream.
Oui, en plus.
Voilà.
Je suis pas sûr que Requiem for a Dream soit un comic au départ.
Non, je dis que c'est un film juste connu.
Ah oui, d'accord, oui. Moi, je parlais d'adaptation.
Je pense que ça parlera plus aux gens en disant Requiem for a Dream que...
The Fountain.
Ouais. Zik.
Alors, moi, deux films que je peux pas ne pas oublier, ne pas revoir, c'est Scott Pilgrim, qui est très récent, que j'ai dû voir je ne sais pas combien de fois, qui est magnifique au niveau des dialogues et puis même de la réalisation. Et puis History of Violence avec Viggo Mortensen, si je me rappelle bien, qui est vraiment une claque dans la gueule. Enfin, c'est vraiment très bien réalisé, très bien joué. Et c'est pas du tout, en plus contrairement à ce que dit le titre, c'est pas du tout violent. Enfin, c'est violent psychologiquement, mais la violence c'est pas hyper présente non plus. Donc voilà. Et le film que j'attends, par contre, c'est Dredd. En 2012, prochaine adaptation de Judge Dredd. Ouais. Voilà, donc j'espère que ce sera beaucoup mieux que Stallone. Je pense que ce sera beaucoup mieux que Stallone.
Pas difficile, hein.
Pas difficile.
J'attends Stallone était merveilleux, arrêtez. Vous êtes mauvaise langue.
Bah, c'est-à-dire que dès lors qu'il enlève son casque, c'est plus Judge Dredd, donc... voilà, on va pas partir dans les dans ce genre de...
Et toi, Steve?
Voilà, Steve.
Pour moi, c'est vrai que j'aurais dit un peu comme Nono, j'aurais dit Sin City, mais vu que Nono l'a cité, et histoire de parler d'une autre adaptation dont personne n'a parlé jusqu'à présent, je vais dire Hellboy, que j'ai...
J'ai cru que t'allais parler du porno de...
oui, non, ça ne fera donc pas ça, partie du panthéon de mes films. Non, du tout. Non, Hellboy, j'avais vraiment apprécié le film, je l'ai trouvé relativement fidèle, même en prenant quelques libertés.
Même le 2
Le 2, j'ai...
Un peu déçu.
Honte à moi, je ne l'ai pas encore vu.
Ah ouais, j'étais un peu déçu.
On peut pas faire plein de podcasts et voir tous les films, c'est pas possible.
Bah si, hein.
Tu devrais, Steve.
Donc ouais. Voilà. Mais c'est vrai que Sin City avait été pour moi une énorme claque à l'époque. Et dans les films que j'attends le plus, je vais faire un truc... Non, pas du tout. Non, absolument pas. Un film qui va sortir assez... bientôt, on va dire. C'est pas très français, mais c'est pas grave. Cowboy and Aliens.
Ah ouais.
M'a l'air d'être une bonne surprise. On verra au final, si ça se trouve, ça sera peut-être totalement moisi. Mais ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Donc,
Le duo d'acteurs, il promet, je pense.
Faut juste espérer
que
ça soit de quoi.
Ouais. Bah, j'espère, ouais. Bah, j'hésitais entre ça et Ghost Rider 2, donc, Pourquoi c'est pas crédible? Je ne comprends pas. Donc voilà. C'est ça, et puis Sin City 2, un jour peut-être. Voilà, donc on va se quitter là-dessus. On reviendra peut-être sur les adaptations, c'est même sûr. On y reviendra, je ne sais pas quand, mais on y reviendra.
On fera un spécial Ghost Rider, ouais.
Ouais, c'est ça, exactement.
Un spécial Hulk.
On n'en a pas parlé de Hulk. D'ailleurs, il était en train de passer ce midi, sur je sais plus quelle chaîne, le tout premier. Et je me suis dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est vert. C'était horrible. Ça faisait mal aux yeux, quoi.
Et était-ce vraiment besoin d'en parler, de Hulk? Non, il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui fait partie de la liste des adaptations, même si c'est très très peu connu, c'est Men in Black.
Oui, Men in Black.
Il y a un 3 qui est en préparation.
Oui.
Ouais.
Bon, voilà.
3 qui est prévu pour 2012.
Ouais. Et est-ce besoin de préciser que c'est un très bon film? Ou pas? Non, je sais pas, vous n'avez pas de réaction. C'est pas grave!
C'est pas très très bon, c'est un film sympa.
Man in black, man in black, ta-na-na-na-na-na.
Attends, quand on parle des BO, alors autant qu'on chante Ghostbuster.
Ouais, ou va peut-être se quitter avant que ça dégénère, avant que le vin ne parle.
Non. Et on vous enregistre le prochain podcast spécial chanson de comics.
Bah oui, pourquoi pas, ça pourrait faire un bon thème.
Dans le prochain podcast, les comics bourrés, bien ou bien?
Bien.
Bien, sur ce, on vous laisse, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je me doute que c'était peut-être pas facile.
Oui.
Ouais, il y en a un seul qui réagissait.
Non, mais là, au moins, tu vois, on l'est aussi conseillé pour le vin. Oui. C'est pas mal, ouais. Donc, c'est de quoi boire. Donc la prochaine fois, on leur dira quelle voiture prendre pour écouter les podcasts.
Voilà. Quelle voiture ne pas prendre, surtout.
Voilà.
Donc la Cadillac de Kiwi, pas du tout.
Roulez bourré. Ouais. Bon, bref. On s'est quitté.
Très bon vin, je tiens à préciser, le Cadillac de 2003 est superbe.
Voilà. Les verres sont
vides. Et n'oubliez pas l'eau de source sponsorisée par le Nord-Pas-de-Calais.
Ouais, ouais. Et puis le canard WC, ça fait toujours du bien.
Voilà.
Moi, j'ai jamais arrivé à s'en sortir. Bref, les verres sont vides, il est temps de remballer. Je vous souhaite à tous une très très bonne longue vie. Tiens, je veux...
une bonne année,
vie et prospérité.
Voilà, longue vie et prospérité, comme dirait Michel Lupien. Et puis je vous remercie à tous d'être venus pour ce spécial. En ce si beau dimanche après-midi.
Comme d'habitude.
Oui, exactement. Ça coûte cher de faire un podcast. Surtout à celui qui...
Nono qui arrête pas de raquer du pognon à tout le monde.
Surtout à celui qui héberge la combe. Bien, bah, merci à tous. À dans 2 mois pour des prochains débats. Pas encore de thème défini, on en parle en off. Et puis, vous verrez quand ça sortira, je pense. Vraiment qu'on fasse une petite annonce avant. Ça vous laisse totalement froid.
Totalement.
C'est la fin. Voilà. Bref, merci beaucoup, à très bientôt. Et puis c'est tout. Hein,
salut et à vous Paris.
Ciao les gens.
Salut.
Salut à tous. Enfin.